Oh, quel magnifique bonjour à tous ensemble. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est sans présentateur. On va faire ce qu'on peut. Hein. Mm. Je vais essayer de plus ou moins prendre leur lait comme il y a longtemps. Hein.
Oui.
Après Yannick, je me sens un peu. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Donc,
Une petite nostalgie comme ça. Ouais, un petit retour aux sources. Voilà,
c'est sympa aussi. Podcast old school.
Exactement. Version 1.0.
La citation du site. Voilà. Hein, le jeu vidéo, c'était mieux.
Oui, le jeu. Mais c'est magnifique, c'est beau ce que tu dis.
N'est-ce pas?
Donc, ouais, vous aurez compris que notre présentateur en chef a eu un petit empêchement. On espère que ça arrivera pas trop souvent parce qu'il nous est précieux. Et on va quand même faire un petit tour de table de qui est là. Alors, Seb, qui nous revient après.
Rebonsoir.
Voilà.
Et puis, je suis de retour.
Et tu vas nous présenter cette fois.
Oui, je vais vous faire une nouvelle rubrique sur un jeu de société. Même risqué à ça, on verra ce que ça donne.
Ouais, cool.
Et puis au niveau jeux vidéo, je vais pas vous dire grand chose parce que je joue plus beaucoup, donc voilà.
Ok.
Je suis papa.
Tu vas être notre spécialiste de société.
Notre monsieur Fall.
Notre monsieur Fall à nous. Ah, sans la barre.
Faut que je me pousse la barre. Ouais.
Falloir laisser pousser.
Un berbe comme je suis, c'est mal barré. Quoi.
Ouais, c'est. Greg.
Bah oui, je suis là.
Toujours présent, toujours au poste, comme d'habitude.
Toujours fidèle au poste. Ouais.
C'est magnifique. Et Sam aussi, toujours présent.
Oui, hein, toujours. Tu sais que j'ai pas raté beaucoup d'émissions jusqu'à maintenant.
Ouais, c'est les deux là. C'est le groupe de le Simon. Ça. C'est beau.
Le noyau.
C'est le noyau. C'est magnifique. Bon, on va commencer par. Alors, on fait de nouveau un podcast glandeur hein, ce mois-ci. Hein. On n'a pas de grand thème un peu intelligent à traiter.
Tu sais, ça pourrait peut-être partir.
Ça pourrait partir en cacahuète parce que étant foncièrement des gens très intelligents.
Ouais, et puis sentons-nous libres hein, si tout d'un coup il y a un des thèmes effectivement. Voilà. Si on sent qu'on dérape sur quelque chose de bah, allons-y, hein, gaiement. Ouais.
Donc, on commence par l'actu, hein, par deux, trois trucs qui nous ont interpellés. Je vais d'abord laisser la parole à Greg qui voulait nous parler un petit peu de Irrational, je crois.
Ouais, Irrational Game qui a fermé ses portes, ou qui va, enfin, voilà, c'est terminé pour Irrational. Et donc, Ken Levin qui a annoncé qu'il voulait.
Tu peux juste rappeler qui c'est ?
Oui, Irrational, excusez-moi. Oui, ouais, tout à fait. Irrational, donc c'est. Alors. Pour les jeux les plus récents, c'est les BioShock, donc BioShock 1 et BioShock Infinite. C'était, je crois, les System Shock hein,
ouais.
Avant.
Ouais.
Et donc, ben, son emblématique directeur, on va dire Ken Levin, qui a annoncé qu'il allait maintenant aller dans des projets plus, on va dire, moins ambitieux, moins triple A, comme on aime dire. Voilà. Alors, bon, moi, personnellement, c'est un vrai crève-cœur, un authentique crève-cœur. Je suis persuadé que M. Levin va continuer à faire très grands jeux. Je pense que ça va lui faire aussi, d'une certaine manière, vraiment du bien. D'aller dans des projets peut-être
de moins,
voilà, qui ont moins de pression, qui ont moins de contraintes financières et d'éditeurs, tout ce qu'on veut. Mm-hmm. Maintenant, je pense qu'on vraiment le jeu vidéo perd aussi quelque chose de très important. C'est que si je prends le BioShock Infinite, le dernier exemple, je pense qu'il y avait une vraie réflexion sur le triple A, sur notre rapport au triple A. Et vraiment, je crois que c'est une réflexion qui me passionnait encore plus que la réflexion qu'il peut avoir dans le milieu indépendant. Ouais. Je fais un peu des généralités. Hein, mais et là, vraiment, je pense que c'est vraiment dommage. J'étais mais impatient de savoir où ce monsieur allait aller dans notre questionnement par rapport au concept de triple A, par rapport au... voilà, qui creuse, parce que finalement, le triple A reste un des trucs les plus mainstream qu'on a dans notre média. Et je pense que des gens qui pensent au triple A, c'est capital. Quoi.
Et puis, ce qui concerne la majorité des gens qui jouent, en fait,
exactement,
simplement.
Exactement.
Ça reste aussi c'est la première porte d'entrée aussi vers des jeux peut-être plus de niche ensuite. Donc, c'est important aussi d'avoir de la bonne qualité et des bonnes réflexions à ce niveau-là.
Exactement. Ouais. Puis après, moi, personnellement, j'ai toujours été passionné par... comment dire ? J'ai toujours été intéressé dans d'autres médias par... des choses mainstream qui se pensent en fait et puis qu'on des choses à dire très fortes. Je trouve d'une certaine manière plus difficile de mettre ça en place qu'un projet indépendant qui est très intellectuel, où je trouve ça d'une certaine façon plus simple. Mm-hmm. Et là, je trouve vraiment que le jeu vidéo perd le jeu vidéo triple A perd
un de ses penseurs,
un vrai penseur qui faisait vraiment du bien et qui aurait pu faire encore beaucoup de bien, faire beaucoup de petits aussi en plus. Donc ouais, pour moi c'est une très mauvaise nouvelle. Honnêtement, c'est une très mauvaise nouvelle. Je doute pas qu'il va faire de bons jeux en indépendant derrière, mais j'échangerai pas pour le coup mon baril de BioShock
contre. Faut voir. Mais moi, ce qui m'a plus choqué, c'est marrant, je pensais que t'allais parler de ça. Moi, c'est l'annonce qui m'a choqué en fait. J'ai trouvé comme ça a été fait, j'ai trouvé que c'était de très mauvais goût en fait. C'est-à-dire que c'est Take-Two, hein. A voulu faire un peu genre il va se consacrer à des choses plus petites et tout, et un peu genre oui, au fait on va virer 150 personnes,
Alors, je suis désolé, je suis pas dans les considérations.
Non, mais t'as raison, mais je veux dire, c'est très juste ce que tu dis, je partage totalement. Mais je dis, il y a aussi ce côté-là où, à la place de dire avant tout, on est en train de fermer Irrational, donc c'est avant c'est tout vrai. Ça l'information. Ouais. Et puis, que quand même, voilà, d'un côté, il y a Ken Levine qui va faire ses projets, il reste quand même chez Take-Two, hein, je crois. C'est toujours Take-Two il a une petite cellule à l'intérieur de Take-Two, mais surtout, voilà, ils ont voulu faire croire que surtout l'information c'était ça pour pas qu'on leur tape sur les doigts parce que de l'autre côté ils foutaient du monde dehors.
Mais c'est pas grave, Microsoft a déjà débauché Microsoft a déjà débauché une bonne partie de l'équipe d'Irrational.
Quel monde de requins.
Quel monde de requins.
Ouais, franchement,
de bon
c'est
goût.
Horrible. Ouais. C'est horrible.
Bon, au moins ils l'ont fait avant, comme disait, je discutais de ça avec un ami qui me disait au moins ils l'ont fait avant la Game Developer Conference où généralement on trouve du travail, alors que Square Enix l'avait fait juste après, les développeurs avaient moyennement aimé.
Ouais, c'est vrai. Et on pensera avec émotion à BioShock PS Vita hein, qui du coup.
Oui, c'est juste.
Certainement en train de sombrer dans les abysses aux côtés de Rapture. Hein, là, je pense que c'est mal barré.
Et quand, au Move sur PS3, il était compatible au final parce qu'il y avait aussi cette annonce un peu tremblement de terre.
Franchement, je ne sais plus. Ouais, je sais même pas s'il était d'origine.
C'était de l'effet levier à 2 francs de 3.
C'est vraiment pour moi, voilà, encore une fois, à la lumière de BioShock Infinite, je pense vraiment que ce monsieur avait une responsabilité.
Ouais.
Dans le triple A, dans cette réflexion là, et je trouve ça dommage. Voilà.
Au moins avec son côté mégalo, je doute quand même qu'il reste longtemps dans cette.
Mais c'est voilà, ce serait, ça, ouais. J'échangerais volontiers David Cage.
Oui, effectivement.
Lui qui va recevoir la Légion.
S'il pouvait devenir un D, lui, puis nous foutre la paix, disparaître de. après, je sais plus ce qu'on voulait causer. Oui. Est-ce qu'on voulait dire un mot sur. On a parlé éventuellement de parler un petit peu de cette folie du 1080p et du 720p.
C'est toi qui voulais parler de ça.
Assume. C'est pas moi, c'est Greg qui voulait parler de ça.
Ouais, c'est pas faux. Enfin, je voulais
ouais,
pas.
Non, mais c'est effectivement, c'est marrant. Enfin, c'est juste une.
Ouais, c'est un truc rigolo.
La nouvelle guéguerre.
Ouais, bah oui, mais on est en début de génération d'une nouvelle génération de consoles. Et puis, il y a donc. Tous les internautes, les joueurs sont encore nourris de la guerre de la précédente génération. Et du coup, tout le monde a le couteau entre les dents.
Qui, à mon sens, c'était quand même bien calmé. En tout cas, j'ai moins
oui,
vu
tout
de,
à fait. Sur la fin,
virulent comme au début.
Ouais, sur la
là,
fin,
ça revient d'un
calmé.
Coup de manière oui. bien violente oui. sur deux choses.
Bah, c'est la résolution hein, et les FPS. Alors, je dois dire, à raison, parce que c'est vrai, d'une certaine manière, Jack, la génération précédente, particulièrement Sony pour le coup, nous promettait du 1080p, 60 images secondes, ouais. Facile, tranquille, et puis qu'on n'en a pas eu beaucoup. Hein, mm-hmm. Et là, tout d'un coup, on était en droit d'attendre, en tout cas le grand public était en droit d'attendre cette réalité au moins pour cette génération-là, et il semble que ça ne soit pas aussi simple que ça, surtout du côté de Microsoft, mais je pense du côté de Sony, c'est pas si simple non plus, parce que pour l'instant, les gros jeux, on l'a vu avec le Killzone, qui est un vrai jeu PS4, contrairement à Tomb Raider, qui est une adaptation, c'est un jeu qui tourne en 30 images secondes, donc voilà, mais du coup, apparemment, on va à nouveau être un peu coincé, mais ce qui est marrant, c'est ce que ça révèle sur les joueurs, quoi.
Ouais, c'est ça, cette espèce de. Alors, autant le 60 images secondes, je peux comprendre, parce oui. que là, il y a une vraie différence au niveau gameplay, oui. au niveau précision, il y a un sentiment beaucoup plus agréable de jouer en 60 images secondes. Alors, par contre, effectivement, le 720p, le 1080p. Mais
ça reprend les gros débats de qui a la plus grosse.
Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. C'est...
Surtout que les consoles sont capables d'upscaler. Ouais. Enfin, y a, c'est vraiment, à mon sens, un faux débat. Par contre, effectivement, je te rejoins sur le FPS, surtout ouais. pour certains styles de jeu, où vraiment, là, il y a une importance de confort, je ouais. pense, clairement. Mais ce qui est marrant, c'est que comme la situation s'est inversée, comme la génération précédente, les jeux multiplateformes étaient plutôt plus solides, plus agréables à pratiquer sur la Xbox 360. Là, en tout cas en début de génération, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. Ouais. Et du coup, il y a une sorte de revirement, de changement, de retournement de veste dans ouais. tous les forums du monde entier. Alors, du côté de chez Sony, apparemment, c'était pas si important à l'époque. Ça le devient vraiment. Sur Xbox 360, c'était très important. Ça l'est beaucoup moins maintenant. Enfin, voilà, c'est un peu ça que je trouve assez amusant. Et puis au final, même si c'est un peu facile, j'ai envie de dire, si vraiment c'est important, payez-vous un PC. Parce que...
Ouais, c'est ça. Si t'as voilà, envie de te si toucher vraiment, la nouille sur ce genre de truc, effectivement. Voilà. Ouais.
Moi, je trouve que c'est à la fois un peu triste et marrant, effectivement. Mais je me demande si c'est pas parce qu'il y a si peu de jeux à comparer, ou en tout cas des grosses exclus qui valent vraiment le coup sur une plateforme ou l'autre, que du coup les joueurs se rabattent un petit peu sur des aspects secondaires comme ça.
C'est pas faux.
Pour justifier des fois aussi leurs dépenses, t'as l'impression de dire ouais, moi j'ai plutôt acheté ça parce que si. Puis il y a à chaque fois une espèce de guéguerre.
Ouais, à l'époque on disait ah, j'ai acheté la PS3 parce qu'il y a tel jeu. Maintenant c'est ah, j'ai acheté la PS4 parce que c'est 1080p.
Oui, et puis c'est vrai que pour l'instant. Sur PS4, il n'y a pas énormément de choses qui sortent. Sur One non plus, hein, mais il y a le Mastodon Titanfall qui est,
oui, au moins, qui est en embuscade.
Qui est un petit peu en embuscade. Et du coup, effectivement, les attaques, entre guillemets, quand il y a deux fan clubs qui s'affrontent, ben, les attaques se font là du côté de Sony, du côté vraiment technique quoi, sur les mecs.
Bah, bon. je comprends. Après, ce que je trouve marrant, c'est que je trouve que c'est aussi assez révélateur le fait qu'elles n'y arrivent pas. J'ai l'impression vraiment que la Wii a changé le rythme en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le rapport de puissance qu'on avait avec quand on est passé de la PS2 à la PS3 ou même de la PS1 à la PS2 où les consoles étaient mais surpuissantes par rapport à celles d'avant et là on se prenait une claque. Même les mecs sur PC, ils regardaient les jeux quand les consoles venaient de sortir, genre waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Et alors que là, on sent que la Wii a montré qu'il n'y avait peut-être pas besoin et que du coup les mecs ont quand même mis la pédale un peu plus soft sur ce saut de génération. En tout cas,
ouais, moi je vais même aller plus loin, je me demande, sans entrer dans des considérations métaphysiques, mais je me demande si le contexte économique, la crise, n'a pas vraiment influencé, ou tout d'un coup, ouais. Ils se sont dit cette fois, ça, plus le fait que Sony s'était bien ramassé à la sortie de la PS3 avec les prix monstrueux qu'ils avaient alignés. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression vraiment que le prix est devenu une donne vraiment capitale. Et après, il fallait faire rentrer tous les composants, ouais, dans ce prix-là. Mmh. Et du coup, on se retrouve avec Microsoft, qui en plus a fait le choix de foutre Kinect 2, qui est un joli morceau, ouais, de technologie, donc qui n'est pas gratuit. Et puis Sony, de l'autre côté, qui a fait rentrer une machine, je pense, bien pensée, hein, bien construite, mais qui à terme va être limitée quand même, parce qu'il fallait la faire rentrer dans ses 449 francs.
Ah bah oui, ils sont traumatisés de leur PS3 qui coûtait 1000 francs.
Il y a ça, et en plus, ils ont dû se dire, mon Dieu, déjà à l'époque, on était dans un contexte économique qui était très favorable et elle ne se vendait pas, ouais, à ce prix-là. Et là, on est dans un contexte économique extrêmement dur, donc il faut faire une console en dessous de la barre des 500 balles. C'est presque obligé.
C'est hyper impressionnant d'ailleurs. Voilà. Avant, une console à 400
pas
francs.
Mais du coup, il n'y en a pas du coup.
Mais du coup, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Quand tu as aussi peu de différence, quand tu as un prix qui est relativement faible, il n'y a pas de miracle technologique. Sony, mm-hmm, surtout, financièrement, n'est pas au top. Ouais. Ils ne peuvent pas commencer à vendre à des consoles où ils perdent 400 balles par console ou 200 balles par console. Donc on a ce qu'on paye quoi.
Ouais, est-ce que c'est pas aussi, ouais, quelque chose qui a baissé entre les PC, enfin je trouve les cartes graphiques qui sont en train de sortir, il y a moins de différence qu'avant, où il y a un temps t'en as une qui sortait ou peut-être une fois par année, je trouve qu'il y a moins de différence qu'à l'époque aussi.
Ça va moins vite parce que il y a pas les jeux pour les exploiter en fait, ouais, c'est simplement ça. Mm-hmm. Aujourd'hui ils vont pas se mettre à sortir vu que le marché principal c'est la console,
oui.
Ils vont pas commencer à courir à la puissance alors que les jeux suivent pas derrière.
Oui, tout à fait. Mais...
ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que le choix des architectures de console, c'est aussi fait peut-être sous, ouais, cette constatation, en se disant ça va passer parce que de toute manière, la course à la puissance sur PC est un peu tributaire du marché des consoles. Donc, c'est nous qui allons donner le tempo. Bah, je pense que c'est pas forcément vrai parce que, comme tu le disais avant, Sandro, si au bout d'un an, même pas, ou 3-4 mois, on se retrouve par exemple avec un Witcher 3 au hasard, ouais, où tout d'un coup la version PC est PC même pas ultra haut de gamme, la version, ouais, PC. Quand tu la vois tourner, elle te fait baver, puis que les versions de nouvelle génération console, tu sens que c'est un peu limite. Ça, franchement, ça va faire.
Ouais, ça va être craignos. Les gens, ils risquent de pas trop aimer. Je sais pas, faudra voir.
C'est déjà... enfin, moi, j'ai un collègue qui a acheté une PS4, il joue à Battlefield, il en pouvait plus. N'importe quoi, on a vécu ça il y a un an quand BF3 est sorti sur PC.
Mais au moins, c'est à la hauteur. C'est-à-dire que.
Oui, c'est à la hauteur, 4, mais c'est une année de retard.
Ouais.
Donc, c'est des jeux de launch.
Oui, tout à fait.
Il faut jamais oublier le syndrome jeu de lancement aussi. Hein,
ouais.
Mais
en même temps, c'est des architectures hardware plus simples aussi qu'à l'époque. Mm-hmm. Donc c'est vrai que normalement, on devrait être assez vite, assez haut quoi, au niveau de l'exploitation. Ouais. Mais...
mm-hmm. Bon, on verra. Moi, je voulais dire un petit mot sur... alors normalement, l'article sera sorti quand le podcast sera publié, mais j'ai fait un article sur Flappy Bird. Et je pense que ça a été quand même un phénomène assez grand ces derniers mois. Et je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire dessus parce que c'est un jeu que dans un premier temps, enfin que j'aime toujours pas, hein, mais que j'ai vraiment méprisé dans un premier temps. Et il a fallu justement qu'il y ait tout ce qui s'est passé et que cela... En fait, pour ceux qui connaîtraient pas l'histoire, en gros, il y a ce jeu qui est apparu sur l'App Store et puis sur le Google, l'Android Store... Mais il a été publié, je crois, mai 2013, sans que personne le voie. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un buzz qui est monté fin d'année, novembre à peu près.
Octobre-novembre,
je regardais sur Touch Arcade, les gens ont commencé, entre autres, qui est un peu la mec du jeu iPhone, où les gens ont commencé à dire « Oh, mais il y a ce jeu », ils ont commencé à se tirer la bourre sur les forums. Et tout d'un coup, il y a un buzz énorme qui est monté. Et le jeu est un jeu gratuit avec des bandeau publicitaire, avec un look un peu très, avec un oiseau un peu générique, avec un assez mignon générique comme ça, et puis des tubes entre lesquels il faut passer, il faut le faire flotter entre les tubes sans les toucher, et ces tubes ont des gueules des tubes de Mario, enfin vraiment un truc, une sensation un peu malhonnête quand on prenait le jeu en main, qui avait vraiment, on se disait voilà, encore un de ces jeux cheapos qui essaye de voler les d'autres concepts. Et puis du coup moi un peu je l'avais essayé pour voir ce que c'était, puis un peu dégoûté par le fait que en plus ça je trouvais le gameplay pas fantastique et j'étais un peu passé à autre chose, mais par contre alors voilà quoi, la folie autour quoi, tout le monde, enfin toi tu disais Seb, tes collègues sont
mais moi j'ai tous mes apprentis, mes collègues qui jouent à ça pendant leur pause, ils se tirent la bourre, celui qui a fait le meilleur score, j'ai même pas de quoi y parler.
Ouais, et puis c'est un jeu très dur en plus.
Ah ouais, c'est vraiment, moi j'ai première partie, j'ai fait doux.
C'est voilà,
super
c'est...
fort.
Ah bah joli, parce que la première, moi j'ai fait zéro. Hein.
Non, c'est extrêmement dur, effectivement.
Donc ouais, c'est très très dur. Et puis ce qui est curieux, pour que ça marche auprès du grand public, ce côté très dur. Tu veux parler de Dark Souls, c'est ça?
Non, même pas.
J'y ai pensé aussi, non.
C'est pas une habitude de voir des gens très très grand public, ouais. Fonctionner sur des systèmes justement durs de mort à répétition, ouais. Genre roguelike où vraiment on recommence à zéro tout le temps.
C'est clair.
C'est vraiment surprenant.
Bah parce qu'il a ce côté, bah c'est un peu, j'ai envie de dire, après, voilà, je défends un peu mon mais pour moi, le premier jeu qui a fait ça sur portable, c'était Super Hexagon. Il y avait ce côté où en une seconde, t'étais mort. La première fois, tu jouais une seconde, t'étais mort au bout d'une seconde. Et ce qui était intéressant, parce que je trouvais que justement, on n'avait pas des parties trop longues, et du coup, le défi était toujours. On avait plus l'impression, bah, comme dans Flappy Bird, qu'on avait presque réussi. Que raté en fait. Donc ce qui pousse à ce loop où t'as toujours envie d'essayer en fait.
Et puis je pense pour les grands publics, ce décompte entre guillemets des points ou du niveau qui est extrêmement simple, extrêmement clair, c'est le nombre de tubes que t'as passé.
Exactement.
Et du coup c'est extrêmement
c'est
facile,
très
compréhensible. Alors moi j'y ai pas joué, mais est-ce que c'est toujours les mêmes séquences ou est-ce qu'il y a quelque chose d'aléatoire ?
Alors c'est aléatoire. Okay, c'est-à-dire que la hauteur des. Alors j'ai pas réussi à. J'ai essayé de vraiment. De regarder des vidéos et ça, j'ai pas réussi à piger, mais j'ai pas réussi à reconnaître des patterns, c'est-à-dire qu'il y a pas cette notion d'avoir une séquence de tubes, il m'a pas semblé en tout cas qu'ils se répètent et puis qu'ils sont juste mélangés différentes, il me semble vraiment que les tubes tout d'un coup ont des hauteurs différentes puis après à toi de te démerder. Mais bref, phénomène, ça se lance. Personnellement, je suis passé un peu à côté, mais comme beaucoup d'ailleurs, c'est là où c'est qu'il y a beaucoup de gens, ben voilà, de bon goût soi-disant, de gros joueurs qui ont un peu craché dessus. Du coup, lui, qui s'appelle Dong Nguyen, qui est un Vietnamien. Ça d'ailleurs, je pense que c'est pas anodin aussi dans le traitement qu'il y a eu du jeu. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui vient d'un pays qui est associé dans nos têtes à la Chine, tout ça, des gens qui copient des concepts. Donc aussi, raison de plus pour mettre à la poubelle vite fait avec plein de préjugés. Et puis du coup, ben, il a subi pas mal de pression où les gens lui ont vraiment beaucoup trashé, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Et il a fini par retirer son jeu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en soutien à ça, des développeurs indépendants ont dit on va faire une game jam où le thème ça sera Flappy Bird et puis on va faire on va prendre le gameplay de Flappy Bird et on va faire notre version du gameplay de Flappy Bird et ce qui est déjà intéressant parce que déjà je trouve que ce qui est hyper intéressant c'est qu'on peut voir qu'on peut faire une game jam où le sujet c'est un gameplay et puis que les développeurs vont s'approprier ce gameplay et en faire autre chose. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'identité de gameplay qu'on peut s'approprier. Ça, je trouve assez rigolo parce que souvent, les game jams, le thème, c'est une phrase, de la musique. Mais d'avoir un gameplay comme thème, c'est plutôt sympa. Et ça a engendré Maverick Bird qui lui, à l'inverse, dans le milieu un peu joueur, a été... tout le monde dit « Jouer à ça, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. » Personnellement, je le trouve vraiment incroyable. J'aime beaucoup. C'est de Terry Cavanagh, celui qui a fait justement Super Hexagon. Et en jouant à ça, en fait, j'ai commencé justement à me dire j'aimerais bien écrire un article dessus. Du coup, j'ai commencé un petit peu à rejouer à Flappy Bird et puis aller. Et je crois que, en fait, je me suis rendu compte que j'étais un con, en fait. C'est-à-dire qu'avec mon prétendu bon goût, j'avais snobé Flappy Bird. Et au final, je pense que Maverick Bird et Flappy Bird, ils ont vraiment le même gameplay. Le gameplay de Flappy Bird est bon. La seule chose, c'est qu'il m'est pas destiné dans sa mise en forme, en fait. C'est-à-dire que quand je bosse de temps en temps dans une maison de quartier avec des jeunes, puis je leur posais la question justement, mais qu'est-ce que vous aimez, enfin pourquoi ? Puis beaucoup me disaient, mais c'est parce que c'est simple, parce que tout est très simple et c'est difficile, mais je comprends vite, c'est très très simple. Alors que Maverick Bird, c'est du Cavana, quoi. Il y a de la musique électro à 200 à l'heure. Enfin des couleurs qui pulsent dans tous les sens. Le héros, c'est pas du tout un personnage, c'est un cube. Enfin, c'est très. On est sollicité par des milliards de choses en 5 secondes. En fait, c'est extrêmement agressif pour quelqu'un qui ne joue pas. Alors qu'à l'inverse, Flappy Bird, en restant difficile, en ayant le même cœur de gameplay, fait un effort pour dire voilà, je vais pas. Déjà que le jeu est difficile, je vais pas envahir les gens avec des milliards de stimuli à la seconde parce que je vais les faire fuir. Et je pense que voilà, c'est juste pour ça de dire voilà, je pense que je me suis complètement planté. Flappy Bird est plutôt un bon jeu, mais simplement qu'il m'est pas destiné dans son essence en fait, dans sa mise en forme en fait, je veux dire.
Il y a pas des petits problèmes comme de hitbox, tu m'as dit, ou d'imprécision de gameplay ? Ça, c'est alors important.
Lightbox, non, il y a pas d'imprécision. Lightbox, c'est marrant parce que en fait, j'ai un peu fouillé sur cette histoire de hitbox.
Excuse, mais c'est quoi une hitbox ?
La hitbox, mais c'est une très bonne question. La hitbox, c'est en fait dans un jeu, on va avoir l'oiseau, par exemple, dans Flappy Bird.
Okay.
Et la hitbox, c'est l'endroit où quand il touche un tuyau, eh ben ça va toucher. Dans Flappy Bird, c'est vraiment la forme du personnage, c'est-à-dire qu'elle est 1-1, c'est-à-dire qu'elle est vraiment collée sur les bords du personnage.
Okay.
Alors que dans la plupart des jeux, par exemple, Terry Cavanagh en parlait pour son Super Hexagone, quand il faisait bêta-tester son jeu, et ben les gens râlaient parce que quand il avait mis le triangle où la hitbox était exactement sur le triangle, les gens, ça leur paraissait injuste. Mmh. Alors du coup il a dû la réduire pour qu'elle soit un petit peu plus petite, c'est-à-dire que des fois la pointe touche mais ça passe quand même.
D'accord.
Et c'est une chose vraiment très importante des jeux d'arcade de l'époque, que ce soit les jeux de baston, les shoots aussi, les shoot'em up, les bullet hell, c'est où t'as ces shoots, ben lightbox souvent c'est un petit machin tout petit au milieu du sprite du vaisseau.
Ouais,
quoi.
D'accord. Okay.
Dans les shoots cave, c'est un point qui est souvent un point qui brille en fait au milieu du vaisseau, il y a un point qui brille, mais tout le reste du vaisseau peut être touché, ça fait rien.
Ça fait rien. Ok, ça marche.
Et là justement dans Flappy Bird, d'où vient cette idée de dire que non la beatbox elle est pourrie, etc. Elle n'est pas pourrie, elle est 1-1 en fait. Et du coup c'est ça qui donne cette sensation extrêmement où tu dis mais j'ai pas l'impression d'avoir touché, mais c'est à cause de ça en fait. Elle est du coup extrêmement
Alors moi, je trouvais hyper intéressant là. J'avais entendu parler de la gamme Jam, mais je trouve intéressant. Mais ce que je trouve aussi très intéressant dans tout ça, c'est la portée un peu sociologique qui s'est passée autour de Flappy Bird, de la dramaturgie de toute cette histoire. Et puis, je trouvais assez hallucinant. Au final, on saura jamais le fin mot. Après, ce que je trouve marrant, c'est que je pense pas que le développeur a des responsables de com autour de lui, mais tout d'un coup, là, quand il est revenu pour justifier pourquoi il enlevait Flappy Bird, il a dit parce qu'il trouvait que son jeu rendait les gens trop addictifs.
Ouais, trop addicts. Ouais.
Je trouve ça assez, assez fou.
Je me demande, en fait, si c'est pas... En fait, il y a deux, trois choses. Juste avant qu'il parle de ça, en fait, c'était un interview à Forbes, je crois, magazine.
Oui.
Et justement, il arrivait en retard apparemment à l'interview de Forbes parce que en fait, il avait dû l'État l'avait convoqué en fait suite à cette histoire, l'État vietnamien qui est la communiste. Je me demande aussi s'il y a pas quelque chose de l'ordre du culturel. C'est vrai qu'aux États-Unis, on aurait tendance à dire putain c'est le buzz, ou en Europe c'est génial mon jeu. Forcément, je me fais un peu cracher dessus, mais enfin je vais. Tandis que là, effectivement, je me demande si on peut. C'est difficile, simplement pas difficile à comprendre pour nous parce que ils viennent d'une région du monde qui a peut-être une façon de penser qui est très différente de la nôtre. Et que ça nous est peut-être inaccessible en fait. Oui. Je me demande si ça vient pas de ça en fait.
Mais peut-être.
Ou
peut-être.
Que justement on lui a dit de la jouer plus douce parce que et puis que c'est pour ça qu'on lui a dit viens écoute mon gars il faut que tu fasses quelque chose, faut que ton truc tu le pour x ou y raison qui me dépasse.
Ouais, c'est possible parce que le fait d'enlever le jeu paraît assez surréaliste.
Aberrant quand il y a un succès pareil. Oui.
Après la Game Jam, je trouve qu'elle a aussi c'est assez intéressant. Il y a une sorte de une portée politique, mais de politique de jeux vidéo. Ouais. Du jeu vidéo. On est sans arrêt en train de parler aussi, c'est pas le premier cas, du rapport des créateurs à Twitter, aux réseaux sociaux. On pensera à notre ami de Fez.
Oui.
non, mais on est dans ces problématiques-là on est après dans cette position politique que les développeurs indépendants prennent vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis des... Je pense que c'est un vaste débat. Mm-hmm. Mais certainement que le cas Flappy Bird, de la Game Jam qui a été fait en hommage ou en soutien ou ce qu'on veut autour de Flappy Bird sera un des éléments de ce débat, à mon avis. Mais qui est là, qu'on va peut-être pas traiter ce soir parce qu'on n'est pas couché. Ouais. Mais voilà. Mais je pense que c'est intéressant parce que c'est vrai que. Et ça se passe énormément, enfin, au niveau du jeu indépendant, quoi. Mm-hmm. C'est les créateurs de jeux indépendants, oui. Par rapport aux réseaux sociaux, oui. Par rapport au retour de. C'est une sorte de truc qui se passe dans cette planète-là, quoi.
Parce qu'ils ont une sorte, beaucoup de réactions que j'avais lues sur Twitter. Il y a vraiment, entre autres, celui de Thomas Wazelone, qui avait Mike Bithell, qui avait pas mal réagi aussi par rapport à ça. Parce que lui, ça l'avait touché, parce qu'avec Thomas Wazelone, il a été aussi confronté à ce genre de choses. Et il avait fait toute une liste de choses auxquelles il faut se préparer quand on commence à avoir du succès. Et c'est vrai qu'eux, ils en parlent beaucoup, je pense, parce qu'ils sont souvent seuls. Et contrairement à quand on est un studio et puis qu'on commence à avoir beaucoup de succès, je pense que c'est le studio qui est pris à partie et moins la personne. Donc je pense que ça doit être moins violent.
Ça dépend pour quel studio, hein, Quantic Dream, par exemple.
Oui, bon, mais bon, là, c'est pas un studio. C'est David Cage, Quantic Dream. mais non, mais sinon.
C'est pas inintéressant, ouais. À part ça, c'est vrai. C'est vrai que David Cage.
Il y a quelques acteurs majeurs aussi. Oui. Qui sont mis en avant, tu parlais Irrational et puis Kevin Levine. Il y a quelques-uns quand même.
Ouais, c'est vrai, ouais, peut-être qu'eux aussi ils auraient.
Je pense qu'eux aussi, j'en suis pas. Alors après, voilà, c'est plutôt aussi des trucs d'ego. Peut-être que justement les créateurs indépendants sont plus dans cette recherche de savoir ce qu'ils valent, de savoir ce qui. Ouais. De se positionner par rapport au monde. C'est des fois des premières œuvres, des fois.
Souvent ils bossent à côté au début et du coup
il y a ce rapport que je peux tout à fait comprendre qui est à fleur de peau par rapport à ça, alors que des David Cage ou des Canevine sont dans le circuit,
ils ont un peu de bouteille, ils sont montés plus progressivement, ouais, c'est clair.
Mais je trouve intéressant, il y aura un truc à creuser après tout d'un coup avec cette Game Jam qui réunit des développeurs indépendants
pour dire on est derrière
on se pose des questions par rapport à ça, c'est je trouve ça intéressant.
Bon, bref, essayez les deux. Enfin, le Flappy Bird, je pense tout le monde l'a un peu essayé. Au pire, il est encore dispo sur le net. Et puis le Maverick Bird vaut aussi son pesant de cacahuètes. Et il y a une version qu'il faut jouer, qui est aussi celui qui a fait Cannabalt, qui a fait quelque chose d'assez original sur le thème, qui est très différent des deux autres, mais qui est vraiment assez intéressant. Il y a des chouettes jeux qui sont sortis de là.
Et puis quand même le jeu français, qui fait partie de la polémique.
Je sais plus comment il s'appelle, jeu qui était de base.
Celui qui est où on a dit Flappy Bird.
Oui, qui l'avait copié. Oui.
Faut aussi essayer ça, comme ça.
Oui, effectivement. C'est juste.
Du truc.
Oui, c'est juste.
Là, clairement, il y a un peu un
doute, hein, quand même. Alors oui, bien sûr. Bon, après, j'ai joué à celui-là aussi. Globalement, c'est. Alors celui-là, il est un peu compliqué. Hein, celui-là, il est difficile à défendre parce que le jeu, il est pas.
Mal branlé.
Voilà, c'est vraiment mal branlé.
Je crois qu'il retravaille sur une version, peut-être qu'il va s'inspirer du coup de Flappy Bird.
Voilà, c'est ça. Je resterai un peu ceux qui disent que c'est du plagiat pur, quand même. Il y a l'idée de base est là, mais après il y aura quand même un travail sur le reste. On en est où là, est-ce qu'on passe directement au...
En tout cas, vous avez parlé comme des vrais véritables connards.
Ouais, on est vraiment confus. Voilà, Flappy Bird nous a amené loin. Donc on va passer directement au jeu après une petite. Petit moment musical. Bah du coup, je vais profiter, vous savez quoi ? Ça sera la musique de Maverick Birds. Voilà.
Oui !
Oui ! Yeah. Alors, nous revoilà revenus hein, pour la section jeux, où on va tous parler un petit peu chacun d'un de nos jeux qui nous tenaille actuellement. On va commencer par Sam, comme avec Greg, on a trop parlé, avec un magnifique jeu qui a un nom incroyable que je ne sais pas. Danganronpa.
C'était presque ça. Presque.
C'est presque ça. Hein,
je vais essayer de le faire mieux que toi. Il s'agit de Danganronpa Trigger Happy Havoc.
Oh putain, c'est classe, ça
je
me fait penser.
Je sais pas si c'est prononcé très bien, mais voilà, au moins c'est plus juste que toi.
Penser au truc de mon grand-père qui me disait ton thé, tatiloté, tatou quand j'étais petit.
Ouais,
des trucs comme ça. Tu sais, c'est ces trucs où tu dois prononcer sans te planter. C'est, ça me fait penser.
J'ai entraîné pendant une heure là pour réussir à le placer. clairement. Je vais parler de ces jeux parce que moi, c'est un jeu que je suis en train de faire maintenant sur lequel j'ai beaucoup plaisir. Je peux juste faire un rapide tour du scénario de ce que c'est.
Oui.
Parce que c'est un jeu, donc on joue un étudiant qui se retrouve coincé dans une école avec d'autres étudiants. Je ne sais pas pourquoi, tout est fermé, toutes les portes sont fermées. Et en fait, il y aura une sorte de personnage emblématique du jeu, qui est un ours en mécanique, qui va être là pour présenter en fait, la situation. Ils sont tous là, ils ne sortiront pas avant qu'ils aient tué quelqu'un. Et qu'ils réussissent donc, à tuer quelqu'un sans se faire attraper par les autres. Donc il y a tout un système de procès qui va se mettre en place, d'enquête et de procès, pour essayer de trouver qui, pour chaque enquête, qui sera le tueur. Voilà. Bon, je ne vais pas spoiler plus que ça. L'histoire de base, c'est juste ça. Il s'agit donc d'un visual novel. Jeu qui n'est pas, enfin, un genre qui n'est pas forcément très, très, très courant, très, très courant dans nos contrées. Je peux dire rapidement de quoi il s'agit. C'est un jeu où il y a énormément de texte, quasiment pas de gameplay. Là, il y a un tout petit peu, mais encore, c'est extrêmement linéaire, on ne peut pas vraiment se planter. C'est plutôt une succession de mini-jeux sur certaines phases et un tout petit peu d'exploration. On peut dire, en gros, là, je vais aller à droite ou à gauche, mais c'est vraiment très, très limité.
Est-ce que ça ressemble à Phoenix Wright pour se donner...
Oui, alors moi, je n'ai pas joué à Phoenix Wright, mais en tout cas, il paraît que la partie enquête et procès est assez proche.
Ok, voilà. D'accord.
Pour ceux qui connaissent, qui aiment voilà. Ça, foncez dessus, c'est génial.
Ok. Ouais,
déjà, pour commencer comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette frange un peu périphérique du jeu, qu'on ne peut même plus qualifier tellement de jeu parce que la partie gameplay, elle est très très peu présente. C'est plutôt vraiment des mécaniques qui sont là pour appuyer à fond le scénario, je trouve, et la lecture qui devient beaucoup plus agréable, en tout cas vivante, que la lecture d'un livre, par exemple. C'est vraiment là-dessus que je voulais un peu...
Et qu'est-ce qui justement, toi qui es grand lecteur et grand joueur, qu'est-ce que tu trouves de le petit plus que ça rajoute, comment tu l'expliquerais en fait?
Justement, je voulais en venir, parfait.
Voilà. Cool.
Pour moi, il s'agit vraiment pour que je lis beaucoup de bandes dessinées, de littérature, pour en tout genre. J'aime beaucoup les histoires, tout ce qui est fiction. J'aime bien qu'on me raconte des histoires où je me sente impliqué, et imprégné, immergé dans l'histoire. C'est ça que je cherche. Je trouve que beaucoup de livres n'y arrivent pas si bien que ça. Là, ce qui se passe avec un visual novel qui est de bonne qualité, c'est qu'il y a vraiment une sensation de littérature augmentée. Dans le sens qu'on n'est plus... Bon, déjà, il y a tout l'aspect musique, visuel, rythmique qui sera beaucoup mieux maîtrisé souvent qu'un livre où des fois on a des passages qui nous intéressent peut-être moins ou la seule rythme qu'on peut donner c'est la lecture qu'on en fait. Là, il y a vraiment un petit côté où on se fait un peu plus balader par ça, et en même temps, ça nous plonge dans une ambiance, ça nous met dans un rythme qui est décidé par les développeurs et qui apporte vraiment un gros plus, à mon avis. Donc ça fait déjà une première identification, je trouve, au personnage qui va bien plus loin. Un énorme truc pour le visual novel, c'est que quasiment tout se passe en dialogue. Donc en fait, les personnages vont se parler entre eux, vont nous parler, enfin un autre personnage, mais en même temps, finalement, on oublie qu'on joue un personnage, mais ces personnages, enfin, pardon, on oublie qu'on joue un personnage joueur, mais tous les PNJ du jeu vont nous parler à nous directement. On vient, en fait, c'est pas notre avatar qui est dans le jeu, c'est plutôt nous, le lecteur joueur, qui devient l'avatar du personnage de l'histoire. Mmh. C'est assez intéressant et assez unique, je trouve, cette sensation-là.
Okay.
Ça fait qu'il y a une implication, quand c'est bien fait, encore une fois, qui est assez monstrueuse.
Et t'as beaucoup de choix de réponse. C'est-à-dire, quand on te parle, est-ce que t'as des phrases
Non.
Pas plus que ça.
Alors, en l'occurrence, vraiment, pour ce genre de jeu, il y a très peu.
Ouais.
Il n'y en avait pas beaucoup non plus dans un autre jeu du même studio qui est Virtuous Last Reward, qui est sorti en 2012, que j'ai beaucoup aimé aussi.
Ouais, donc c'est très différent pour les auditeurs, c'est très différent d'un aspect, tu vois, Mass Effect, où tout d'un coup, tu joues des... Enfin, tu vas aussi interagir et balancer des phrases en réponse, voir ce que ça va provoquer.
C'est finalement très différent, ouais. Parce que là, effectivement, on va essayer de faire coller... Le personnage qu'on voit à l'écran, on va essayer de le faire coller avec nos émotions, nos manières de voir les choses. Là, il y a finalement, c'est le contraire. C'est plutôt... Le personnage qu'on incarne, il va dire des choses... pas forcément très intéressante ou très basique. Et en fait, notre propre personnalité prend complètement le dessus.
Ok.
Donc en fait, il y a vraiment un basculement complet du lecteur. On va appeler lecteur.
Mais tout ça sans te faire des choix.
Sans faire des choix.
Alors... C'est une question de contrat de lecture.
Ouais, c'est tout à fait ça.
Mais est-ce que, non, parce que moi, je voudrais te poser la question, toi qui joues beaucoup justement au jeu Telltale, est-ce que t'as. Du coup, est-ce que, au final, est-ce que. Le côté choix des Telltale serait peut-être pas nécessaire vu que on ressent quand même ces sensations malgré que Danganronpa ne donne pas ses choix.
Je pense que finalement ça reste deux styles assez différents. La principale différence est, comme je disais, que là on fait partie intégrante de l'histoire. Le joueur, il y a une abolition complète du quatrième mur. C'est même plus les quatre murs, c'est un cercle dans lequel on fait partie complètement en tant que joueur et personnalité.
Alors,
du scénario.
J'ai pas encore fait Danganronpa, mais est-ce que c'est similaire à justement Virtuous Last Reward du même studio ou parce que là on avait quand même un personnage, ou est-ce que là
c'est similaire.
Ah, c'est similaire, c'est-à-dire qu'on a ce personnage qui est là comme une sorte de référent, mais dans les faits on est lui.
C'est ça.
Ok, d'accord, c'est similaire.
C'est très similaire.
Excuse-moi, mais par rapport à Telltale, au jeu de Telltale, par exemple Walking Dead, je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est que, et c'est peut-être là où ils perdent un peu de force, où ils vont en perdre un peu dans les autres jeux, les nombreux jeux qu'ils ont en chantier, c'est qu'aussi, dans le style narratif d'une histoire de zombie, la notion de choix est intrinsèque à la narration, aux narrations basées sur les zombies.
Ok, d'accord.
C'est-à-dire vraiment ces notions de qui va être sacrifié, par où on va passer, par machin. Au final, les conséquences, on s'en fout un peu, mais la notion de choix dans l'urgence.
Ah, ça fait partie du style de.
Pour moi,
ouais,
c'est dans le style de la narration.
C'est parti du style, ça apporte une immersion, une identification qui est par le stress, qui est par l'urgence, qui est par le sentiment de
sacrifice de telle ou telle personne.
De proximité avec le héros. C'est plus une question de c'est mon pote, parce que j'ai pas envie qu'il meure.
Mais du coup, alors dans.
Dans Danganronpa ?
Non, dans. juste, non. Arrête de.
Tu arriveras.
Non, dans l'autre jeu de Telltale, là, le nouveau. Parce que là, on n'est pas dans le zombie, on est dans Fable, c'est ça ?
Dans Fable. Ouais, c'est dans The Wolf Among Us.
Voilà, The Wolf Among Us, voilà, c'était ça que je cherchais le titre. Est-ce que là, ça perd ? Vu que dans le style zombie, ça a une justification de par le thème qui est traité. Est-ce que là, ça manque pas de pertinence ? Et c'est peut-être aussi pour ça que certaines personnes.
Moi, je trouve. Je l'ai bien aimé aussi. Je pense que l'histoire est chouette. Le scénario est bien. Mais effectivement, le code, c'est plus un film. C'est beaucoup plus. On est beaucoup plus distant. Moi, j'étais beaucoup plus distant. J'ai plutôt envie de suivre l'histoire, voir comment ça se déroule. Mais j'étais pas vraiment autant pris dedans que Walking Dead, qui était plus une révélation à l'époque, en tout cas pour la première saison. Et aussi, comme tu disais, par son code narratif, sa rythmique, qui fait que tu n'as pas le temps de te poser de questions.
Ouais, je pense à la rencontre d'un style de gameplay, entre guillemets, basé sur le choix, et d'un contexte, enfin d'un canevas de narration qui est aussi basé sur le choix. Est-ce que Telltale en avait conscience ou pas ? Ça, on verra par la suite.
A priori, c'est pas le cas vu qu'ils continuent sur la même lancée. Avec
on verra,
tout le reste.
Voilà. Après, mais ils ont peut-être beaucoup de talent. Peut-être qu'ils
ont du mal à se remettre en question.
Mais est-ce que tu penses que. Parce que moi, je suis peu connaisseur de ces jeux, je les joue peu, mais est-ce que tu penses qu'il aurait gagné à être. The Wolf Among Us aurait gagné à être construit comme Danganronpa ou est-ce que pour toi, quand même, malgré tout, ça se justifie ses choix dans The Wolf Among Us, malgré tout?
Mais écoute, je sais pas. Je pense que la question que je me posais, c'est là-dessus que je voulais ouvrir un peu le débat, c'est que pour l'instant, les visual novels, ils ont cette particularité d'abolir justement ce quatrième mur et d'intégrer complètement la personnalité du joueur dans l'histoire. Ils le font ça de manière absolument naturelle, c'est pas un spoil. Enfin, il me semble que la plupart le font, tu fais partie de l'histoire, c'est tout.
Ouais, déjà, les jeux de drague, hein, d'où viennent les visual novels, le but c'était justement de te retrouver en tant que personne convoitée.
c'est vraiment ça. Joueur, quoi. Alors, c'est pour des thématiques qui personnellement m'intéressent moins, mais il y a clairement de ça. Et là, pour l'instant, Telltale l'a pas fait. Ça reste un personnage fort, très fort, avec une personnalité, avec des dialogues très bien écrits aussi. Mais du coup, en tant que joueur, on s'en éloigne aussi. On n'est pas lui. Mm-hmm. Donc moi, j'aimerais bien voir justement des jeux à scénario, vraiment à narration, plus avec un vrai gameplay ou des choix qui s'intègrent un petit peu, qui intègrent un peu ce côté genre tel joueur, tu fais partie de l'histoire, viens, on va te prendre avec, on va te raconter un truc. Et j'espère en voir. Pour l'instant, c'est un peu l'un ou l'autre.
Une espèce de mélange entre les deux, en fait.
C'est-à-dire... Prends le meilleur des deux.
Ouais, le meilleur des deux. Je me demande si c'est...
Je ne sais pas si c'est possible. Voilà,
Si c'est...
Moi, il y a un truc quand même qui me semble manquer pour l'instant des visual novels ou des jeux de Telltale, mais peut-être plus des visual novels parce que c'est beaucoup plus basé sur l'écrit. C'est au final vraiment l'écrit. C'est-à-dire que ça peut être des histoires très bien racontées, des dialogues très bien écrits dans le sens où les personnages sont bien écrits, donc leurs lignes de dialogue sont cohérentes par rapport à l'écriture du personnage. Et après c'est tout ce côté l'écriture pure, c'est-à-dire comment tu manies la langue, comment tu la voilà, une des magies de la littérature qui, pour l'instant, j'ai pas vu de visual novel ou de jeu vidéo qui faisait usage de ça, quoi.
Non, c'est clair que la qualité de l'écriture en tant que car, on va dire,
ouais, comme vraiment, littéraire, quoi,
l'objet vraiment, littéraire, ouais. Elle n'est pas là. Elle est vraiment dans la qualité de la construction des personnages, de la cohérence,
de l'intrigue
et de l'intrigue.
Voilà.
Un peu comme un polar, en fait, c'est ça.
Comme un très bon polar.
Un bon polar.
Ouais. Voilà. Ou l'assassin, ou l'enquêteur serait vous-même lecteur. Chose qui n'arrive pas dans un livre.
Mm-hmm. Question qui peut paraître bête, mais on fait quoi dans ce jeu à part lire ?
Lire.
D'accord.
Bon. Non, il y a quelques petites phases. Quelques petites phases. On doit réfléchir un petit peu. On demande de réfléchir par rapport à l'enquête, comment est-ce que ça s'est passé. En fait, en gros, on a toujours une situation qui est un meurtre, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, et on va devoir un petit peu explorer, récolter des indices, et au fur et à mesure du procès, on va réussir à refaire la vérité et à trouver ce qui s'est passé réellement.
C'est vraiment très proche de Phoenix Wright.
C'est vraiment très proche. Ouais, ouais, okay. Sauf que c'est linéaire, donc en fait, il y a les mini-jeux pour ça, qui sont assez bien intégrés d'ailleurs, c'est vraiment très drôle. Mais si on les rate, on les refait, et puis on ne peut pas se rater. Il n'y a pas de fausse fin, il n'y a pas de...
Okay. Voilà. Tout le monde arrivera au même endroit, en guillemets.
Tout à fait. D'ailleurs, il y a un mode facile, passer en mode facile, moyen ou dur qu'on veut, si on a envie de passer sa vie de fer. C'est pas un jeu. Moi, je pense que c'est pas un jeu. Je pense que c'est une expérience
interactive,
immersive de malade.
Ouais, de la narration interactive. Quoi.
Voilà, mais c'est pas un jeu.
Celui qui, pour moi, était chaque fois qu'on aborde ce sujet, c'est un que je saurais pas classer, que je trouve qu'il est vraiment à la limite entre le jeu et l'expérience interactive, c'était Ghost Trick, en fait. Je trouve qu'il avait quelque chose d'une vraie structure de jeu, c'est-à-dire de jeu à énigmes où les passages, il y a énormément de choses qui bougent en même temps, ils font une notion de timing, de qu'est-ce que tu déclenches à quel moment, dans quel ordre. Et en même temps, il était extrêmement narratif et sur un procédé, c'est les mêmes qu'on fait d'ailleurs Phoenix Wright. Et lui, je le trouvais hyper intéressant parce qu'à cheval, justement...
C'est un très bon exemple. Et là, effectivement, je trouvais quand même qu'il y avait un gameplay qui était... Certes, un gameplay type puzzle, mais il y avait quand même un gameplay.
Bah, Ghost Trick avait d'une certaine manière, on aurait pu le prendre pour. C'était pas très loin d'une sorte de point and click. La seule différence, c'est qu'il y avait cette notion d'observation aussi de temps et puis de quand déclencher les choses.
Exactement.
Qu'il n'y avait pas dans les point and click. Et c'est là où il avait vraiment ce petit truc.
Ce petit truc en plus. Ouais. C'est juste le côté temps réel, enfin adresse, effectivement, qui était. était bien cool.
C'est un jeu que j'ai vraiment adoré, en tout cas.
C'est un jeu génial. Ouais. Vraiment, je pense au niveau narration, comme ça. Je rêverais que toutes les visual novels aient, alors chacun leur genre, hein, je ne voudrais pas que ce soit que des Ghost Trick, mais qu'aient ce rapport avec des petites idées de gameplay. Ouais. C'est, moi, c'est le truc qui m'embête un peu. Les Phoenix Wright, par exemple, j'ai jamais. J'ai essayé, ça marche un moment, mais je décroche assez vite.
C'est de la peine aussi, vraiment beaucoup.
C'est ce qui me fait un peu peur avec le
Danganronpa.
Danganronpa.
Qui a l'air génial. Enfin, tu regardes un trailer, ça a l'air d'être un univers absolument.
J'ai pas dit le côté design artistique qui est juste malade. Enfin, c'est malade. Fou. La musique est géniale. Ça fait beaucoup aussi, mais le design tabasse beaucoup plus que Virtua's Last Reward, qui était vraiment très terne à ce niveau-là, je trouvais.
Ok.
Ouais, ils sont en train de monter en maîtrise à ce niveau-là.
Et puis au niveau, c'est marrant parce que justement, j'ai quelqu'un qui me parlait, qui connaît bien le Japon, qui étudie le Japon en fait, et qui disait qu'aussi, ce que des fois, nous, l'élément qui nous manque avec ces jeux-là, c'est le mode de consommation japonais de ces jeux-là en fait. C'est qu'on ne consomme pas un Phoenix Wright assis dans son canapé 3 heures d'affilée. Un Phoenix Wright, ça se consomme dans le métro en allant au travail ou dans le bus en rentrant, mais c'est pas des jeux qu'on
votation.
Voilà, exactement comme un bouquin. Lui il disait, je trouvais pas inintéressant comme idée, c'est de dire quand tu rentres chez toi et que tu as envie de te faire un jeu, te lance pas ça chez toi, ça va te lasser en fait. Il faut que ça soit découpé en morceaux pour pas que tu aies envie d'envoyer balader ta console parce que c'est pas prévu pour être consommé comme ça, je sais pas.
Ouais, mais alors en même temps, c'est prévu pour les formats de voyage à la japonaise, c'est-à-dire que c'est prévu pour des formats d'une heure facile quotidien parce que sinon Phoenix Wright par exemple. Pour ceux que je connais, tu décroches. Si tu fais un quart d'heure de trajet, c'est impossible.
C'est ce qu'il disait, c'est que le problème, c'est que chez nous, ça joue pas. Parce que c'est pas adapté. C'est pas inintéressant. Et peut-être c'est pour ça qu'aussi, côté succès des professeurs Layton aussi, auprès de ce très grand public qui justement a tendance plutôt à prendre, qui n'a pas les mêmes attentes que nous, de se plonger pendant des heures, qui ont envie de prendre, de piquer, de reposer.
Pour le coup, personnellement, pour en avoir fait plusieurs, je trouve que les énigmes ne sont pas très intéressantes.
Dans les Layton ?
Ouais. Et puis que l'histoire, le scénario et l'écriture sont vraiment poète.
Oui, alors pour ça, rester poli. C'est ce que j'ai.
Donc, pour moi, il ne reste pas grand-chose. Enfin,
c'est vachement grand public quand même.
Voilà, ça ne nous a pas adressé. Moi, je pense que si tu aimes les énigmes. Moi, j'ai ma belle-maman, par exemple, qui aime beaucoup tout ce qui est énigmes. Elle travaille beaucoup avec des petits en ludothèque et tout. Et elle trouvait très cool que je lui montre et tout. Puis elle prenait note des énigmes parce qu'elle les trouvait très chouettes. Donc, et je pense qu'effectivement, faut juste pas les voir comme un truc qui est censé. Pour toi qui t'es avalé, je sais pas combien de ce genre de jeu, effectivement, pour toi, je peux comprendre, c'est bateau. Mais sinon, je pense que c'est un bon jeu pour le public auquel il est adressé, Layton.
Oui. Si tu veux.
D'accord. Non, alors. Moi, je n'ai fait qu'un. J'ai fait que le premier.
Peut-être que c'est le côté suite à répétition qui me gonfle un peu. Alors, je pense que c'est aussi cet aspect-là qui parle, qui n'aide pas.
Mais bon. Ok. On est ok sur le sujet ou bien
j'ai dit ce que je voulais dire. J'espère que c'était.
Il est traduit en français ou il est que en anglais?
Malheureusement, c'est en anglais.
Malheureusement, c'est en anglais. C'est vraiment un niveau facile à comprendre. Okay.
Non, c'était intéressant. Remis que le nom est tout pourri, c'était très intéressant.
Bon, c'est à qui
Tu me feras des cours pour le prononcer. Greg va nous parler forcément. Je pense qu'on va tous y mettre notre grain de sel parce qu'on y a presque tous joué, sauf Seb.
Non, je vais parler un peu de Titanfall.
Enfin, ouais
la bêta de Titanfall qui n'a pas duré très longtemps, malheureusement.
Pas assez.
Qui a donné suffisamment envie. Alors voilà, on va. Enfin, un peu bizarrement, on va rejoindre un peu le consensus. Hein, je crois, il y a 2-3 sites qui ont exposé 2-3 retenues, on va dire, sur Titanfall, qui sont peut-être justifiées. Hein, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. Mais honnêtement, je pense que on arrive à un peu une nouvelle petite étape dans le jeu multijoueur du type FPS. Ce que j'ai entrevu, en tout cas, me laisse espérer que ce sera le cas au fil
Le nouveau Modern Warfare 1, en fait.
Ouais, un peu. Enfin, on a envie de dire, parce que là, on en avait besoin. Il était temps, vraiment. Et c'est un jeu qui transpire l'intelligence et le savoir-faire de par les designers, quoi. Vraiment, qui sont les papas, justement, de Modern Warfare 1. On sent que c'est un jeu qui a été pensé comme l'étape au-dessus. Ouais. Ils ont certainement dû se dire, et ils ont raison, que dans le genre FPS grand public, ou en tout cas voilà, qui s'adresse à beaucoup de monde, multijoueur, il n'y a rien eu de nouveau depuis Call of Duty.
Depuis Call of Duty, ouais. Voilà.
Et que du coup, ils se sont dit, bon, maintenant, bah, on va faire quelque chose, on va faire l'étape un peu au-dessus, quoi. Et Titanfall a l'air vraiment de se présenter comme ça.
Mais ce qui est fou, avant que tu passes à autre chose, c'est qu'à la base, la suite de Modern Warfare 1, ça devait être Titanfall. C'est-à-dire qu'ils oui. avaient dit à Activision, après Modern Warfare 1, on aimerait faire un shoot futuriste uniquement multijoueur. Et Activision leur a dit, vous avez vu les ventes de Modern Warfare 1, vous plaisantez, vous allez nous faire Modern Warfare 2. Et puis du coup, là, ils ont dit, ok, mais après, on fait notre shoot. Et puis à la fin de Modern Warfare 2, ils ont dit ouais, et Modern Warfare 3, et puis là ils ont dit va te faire foutre. Ils sont barrés. Et puis ça fait les beaux jours d'Electronic Arts aujourd'hui, enfin on espère en tout cas.
Ça devrait. Alors voilà, bon, Titanfall, je vais pas me lancer dans des, parce qu'il y aura des tests plus tard, enfin quand je sortira, mais c'est donc un FPS qui est ultimement multijoueur, qu'on nous annonce comme scénarisé, donc avec des campagnes, apparemment deux clans qui s'affrontent avec des missions dynamiques Enfin, chacune, pour chaque joueur, aura une sorte de répercussion. Alors, c'est toujours un peu flou, ça, parce que c'est pas le premier jeu qui promet ça. Il y avait Brink qui...
Qui essayait de le faire aussi.
Essayait de faire d'autres choses aussi que Titanfall fait mieux.
Bah, mais... En fait, il essayait de faire beaucoup de choses que Titanfall fait mieux, en fait. Voilà.
Mais voilà, ça, on verra. Mais enfin, bref, c'est un jeu qui joue énormément sur la mobilité. Donc, il joue sur deux gameplays différents. Le gameplay infanterie qui joue sur la mobilité, sur le parcours, hein, à la Mirror's Edge, on va dire. Et puis sur l'autre aspect qui est le titan, enfin les titans. Et là, du coup, on se retrouve avec... Enfin, moi, c'est marrant parce qu'à l'époque, quand on parlait de Titanfall, on disait « Ouais, c'est un peu quand Call of Duty rencontre Halo. »
Ça, c'est... Ouais.
Et quand j'ai... Eh
enfin, ouais,
eh,
c'est pas...
Mais...
Oui,
attends,
c'est
mais
vrai,
laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer. Et moi, je ne comprenais pas jusqu'à ce que j'y ai joué. Parce qu'au final, c'est pas faux. Parce qu'au final, tout le gameplay infanterie fait penser à une évolution de Call of Duty. Et dès qu'on se retrouve dans un titan... Eh ben, ça fait penser à Halo.
C'est juste.
Voilà.
Ah, c'est vrai.
Sauf, effectivement, on n'a pas les sauts lunaires quand on est dans le Titan. On a des dashs. Voilà, on a un gameplay qui est plus horizontal. Mais par contre, on a tout ce côté gestion des armes, gestion du bouclier, gestion d'une vie qui est beaucoup plus grosse. Et du coup, on a tout ça qui fait forcément penser à Halo. Le seul truc, c'est qu'en plus, entre les deux, y a un lien. C'est le pilote qui va pouvoir sortir, rentrer, se faire éjecter, grimper sur d'autres Titans. Et du coup, on sent un gameplay. Enfin, moi, je vois pas le bout, quoi. Je vois pas le fond dans les possibilités, dans ce que le gameplay va raconter, dans les scènes. Enfin, moi, en 4 jours de bêta, comme je disais avant, il m'est arrivé plus de choses qu'en 5 ans de jeux multijoueurs dans genre FPS. Donc, pour moi, c'est un jeu qui a un potentiel monstrueux. Et je pense que. Je vois pas comment il pourrait se planter là.
Ouais, puis il est impressionnant justement. On sent que le gameplay a pas été posé au petit bonheur la chance. Et puis on verra bien l'équilibrage. Et puis si c'est, enfin c'est, on sent le craftage.
Mais on peut pas rentrer dans le détail parce qu'on aurait pour toute la soirée. Mais voilà, tout a l'air d'être.
Mais oui, enfin on peut quand même dire 2-3 mots sur quand même le rien que l'équilibrage entre humains, entre robots et ensuite humains et robots où il y a jamais cette sensation parce que dans un jeu où il y a des robots qui font 10 fois la taille d'un humain, on pourrait se dire. Bon, ben voilà, quel est l'intérêt de se promener à pied ? Et là, mais vraiment pas du tout. C'est vraiment une question de situation. C'est une question aussi ce que je trouve brillant, c'est de dire, on a tout un gameplay de parcours. Eh ben, comment est-ce qu'on va faire, entre autres, pour forcer les gens à utiliser le parcours ? Eh ben, on va coller des titans géants. Ou si tu te promènes en plein milieu du champ de bataille, tout seul, avec aucun bâtiment autour, bah t'es mort. Alors du coup, si tu veux être plus puissant contre les titans, réussir à commencer à te battre contre les titans, même si t'es un humain, bah va falloir que t'exploites le parcours. Il va falloir
immobile.
que tu sois immobile, que tu cours sur les immeubles, et du coup que tu puisses aussi sauter sur les titans depuis les hauteurs. Parce que c'est une des possibilités qui est. Au début, ça m'a fait bizarre. Ouais. Le fait que quand je suis dans un titan, qu'il y a un mec qui saute sur ma carlingue, j'ai pas un truc magique pour le faire dégager, en fait. Ouais. Que je sois obligé de descendre du titan et de tirer sur le mec. Ouais. J'étais là, et au final, c'est assez brillant. Ouais. Parce que du coup, ça équilibre très très bien les choses. Et puis, il y a une certaine logique, en fait, à la chose.
Ou alors, ça te force au jeu à équipe où tu vas appeler un pote. J'ai un cafard qui est sur mon cockpit.
Voilà.
Tu peux nettoyer, s'il te plaît.
Tu peux exploser le cafard.
Et puis, voilà. Enfin, non, mais il y a tellement de choses. On peut pas s'étendre. On y reviendra certainement quand le jeu sera sorti.
Un petit truc que j'aimerais bien ajouter, c'est qu'il m'a vraiment profondément marqué, c'est que le temps que tu passes à pied en tant que pilote en courant sur les murs, tu te réjouis de ton moment où tu auras ton titan qui va arriver. Profite de ton moment, ton titan arrive, t'es hyper content parce qu'en plus ça pète de partout, il tombe du ciel, tu le prends, génial. tu t'éclates dans ton titan et quand tu te retrouves à pied, bah, c'était mort ou tu t'es éjecté, t'es de nouveau content d'être à pied.
Tout à fait.
Oui, c'est juste.
Il y a vraiment pas, y a pas de. Juste, ouais. T'as pas de référence entre l'un et l'autre.
Oui, oui.
Il y a une transition entre les deux qui est juste
super agréable. Parce que les deux gameplays sont, sont parfaits.
Ouais. Ouais. Ça, c'est grandiose. Vraiment.
J'y ai pas joué, mais il y a des moments où ça peut arriver que tout le monde soit en titan.
Ça arrive qu'il y ait une grosse baston où t'as, ouais. cas, 4, ouais. t'as du 4 titans contre 4 titans. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois.
C'est là où rentre en compte quelque chose qui est brillant et que je pense qu'il sera copié partout par la suite, c'est qu'il y a des, ce qu'ils appellent des grunts, c'est-à-dire des unités neutres. Enfin, des, non pas des neutres qui sont dans chaque camp, mais comme dans un MOBA, en fait, qui pop automatiquement et qui sont dirigés par l'IA. Et okay. du coup, on a l'impression en permanence d'être sur un gigantesque champ de bataille. Il y a 6 contre 6, ouais. mais t'as l'impression qu'il y a plus de monde que dans Battlefield, quoi. Ouais. C'est vraiment, il y a une intensité de chaque instant. Mmh. Même quand t'es, en train, t'es à un coin de la carte,
les maps
tout
sont
seul,
grandes ou...
elles sont assez grandes.
Il y a tout. Okay. Il y a là les deux maps, en pensant. Ouais, il y en a 14, je crois.
Il y en a des deux qui est vraiment grande. Ouais. Et c'est impressionnant de te dire que t'es que 12 là-dessus. Ouais. Et pourtant, même quand t'es en train de protéger ton point, tout seul dans ton coin en train de protéger, t'as l'impression qu'il se passe des milliards de choses autour de toi alors qu'en fait peut-être que les mecs ils sont les quatre autres ils sont de l'autre côté de la map et il n'y a pas du tout cette sensation, il y a toujours des choses à faire, toujours
pas
des choses à surveiller,
seul, perdu au milieu nulle part,
bah, pas du
pas
tout,
du tout. En plus tu te dépasses tellement vite que tu sois en titan ou à pied avec le parcours que de toute manière t'es très très rapidement à un autre coin de la map, donc ça il y a voilà, il y a absolument pas de frustration, t'es toujours dans l'action, toujours dans l'action.
Et les décors défoncent. J'ai envie de dire, ça, c'est un truc. Je trouve que les décors, en fait, au niveau des animations, de ce qui se passe autour du terrain, c'est incroyable. Il y a une espèce de. Toujours des vaisseaux qui volent dans le ciel, qui passent au-dessus, qui lâchent des missiles. Il y a des tourelles qui tirent sur les. Enfin, il y a toujours quelque chose. On a vraiment l'impression d'être au milieu d'un énorme champ de bataille, en fait. Et c'est beaucoup plus vivant que Battlefield, en final.
Je trouve.
Ouais, parce que Battlefield est dépendant des joueurs.
Battlefield fonctionne sur ces magic moments, quoi. C'est sur ces 30 minutes de partie où tu vas avoir 3 minutes de gloire.
Qui
vont être fantastiques. Et voilà, c'est un
en tout cas, sur le 3, moi, je me suis retrouvé dans des plaines où tu es tout seul à courir comme un con.
Voilà, c'est ça, de vraiment Battlefield. J'ai envie de dire, voilà, j'avais toujours mon schéma. Je disais que Call of Duty, c'était une sorte de ligne plate, on va dire, dans le middle. C'est-à-dire que c'est un plaisir constant qui fonctionne bien pour peu qu'on accroche un peu au gameplay, mais que voilà, tranquille. Et puis après, tu avais la ligne très sinusoïdale de Call of Duty, de Battlefield, qui peut avoir des très hauts comme des bien en dessous de Call of Duty au niveau du plaisir. Titanfall, j'ai envie de dire.
Bah, en fait, il y a quelqu'un qui me disait quelque chose de très juste, c'est Titanfall, c'est le solo de Call of Duty. En fait, mais en multijoueur. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, ce qu'ils veulent rendre d'épique en fait en solo dans Call of Duty avec ce truc hyper scripté et tout. Bah, dans Titanfall, on le vit dans le multijoueur.
Et ce qui change en fait absolument tout.
Voilà, c'est parce ça. Que, bah oui, parce que les situations gameplay, sont en permanence différentes et puis. Ouais,
moi, je rappelle du moment, la première partie que j'ai faite Titanfall où. Tout d'un coup, je me dis putain, on doit se replier parce que tu sais, il y a ce dropship qui vient te chercher parce qu'on perdait la partie. Puis que t'es en train de reculer, puis tu vois que t'as un pote qui te passe à côté en titan et puis qui va face à tes poursuivants, quoi. Et puis là, t'es en train de faire. C'est fantastique, quoi. Il y a des héros à chaque partie, quoi. C'est magique. Arrête de parler.
Non, mais c'est
je vais y rejouer.
Ouais, c'est un peu ça. Hein. Vivement le 14 mars. Dernier jeu, moi. Alors, je vais parler de Puzzle & Dragons, célébrissime, pas chez nous, mais en tout cas au Japon, c'est le jeu téléphone portable. Et c'est même, je crois, le jeu téléphone portable qui fait le plus gros bénéfice au monde. C'est un truc gigantesquissime. Alors pas tout le monde est d'accord parce qu'il y a des endroits où ils disent que c'est Candy Crush caca et puis d'autres où c'est d'autres qui disent que c'est Puzzle & Dragons, mais bref, quoi qu'il en soit, c'est un jeu très important et c'est un jeu qui a mis ça fait 2 ans qu'il est sorti au Japon et en fait il est toujours pas sorti en Suisse, mais on peut, en faisant un compte français assez facilement, comme le jeu est gratuit, on peut le télécharger sur l'iTunes Store français et c'est surprenant en fait, parce que j'avais envie de le défoncer. En fait, j'avais envie de. En fait, j'y arrivais en me disant, les Japonais, des fois, enfin, je comprenais pas quoi. Je me disais, c'est free to play pourri, un truc. Alors, la mécanique, c'est un peu une mécanique à la Pokémon, c'est-à-dire qu'on a croisé avec du match 3. Où on a des monstres en fait qui sont en dessus de notre grille de match 3. On va faire des donjons et dès qu'on match la couleur du monstre, c'est-à-dire il y a des monstres d'eau, de feu, de voilà, chacun a un avantage par rapport à l'autre couleur, à l'autre couleur, le feu, la forêt, enfin bref. Et du coup, il faut assembler trois gemmes de même couleur pour que le monstre attaque, en fait. Et du coup, l'attaque va dépendre de sa force. Donc, ces monstres, bien sûr, on peut les faire leveler, on peut leur donner à manger d'autres monstres, on peut aussi les fusionner entre eux pour créer des nouveaux monstres. Mais j'étais hyper surpris de me rendre compte que le jeu, contrairement à Farmville, contrairement à tous ces jeux de King, etc., n'est pas ce fond un peu où on a l'impression que le développeur essaye de baiser le joueur, en fait. On sent vraiment qu'il y a une envie de concevoir un jeu adapté au téléphone portable en ayant en tête cette notion de gratuité qui aujourd'hui fait effectivement, je vois les ados d'aujourd'hui auxquels je suis confronté souvent, si c'est pas gratuit, t'y cherches pas. Donc il y a cette histoire de dire comment est-ce qu'on fait un free-to-play mais avec un vrai gameplay et tout en fonctionnant sur ce modèle-là. Et il le fait brillamment. C'est-à-dire qu'il arrive à intégrer la notion de paiement dans la façon dont il est construit. C'est jamais abusif. Il n'y a pas ce qu'on appelle le paywall. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on joue, puis d'un coup, on arrive à un endroit, puis là, tu dis, bon, bah voilà, je passe à la caisse ou je me casse, en gros. Il n'y a pas du tout ça dans Puzzle & Dragons. Il y a cette jauge de stamina, en fait, qui, chaque fois qu'on rentre dans un donjon, en fait, on doit investir un certain nombre de stamina pour pouvoir le faire, en fait. Mais il est toujours affiché clairement, et suivant les donjons, plus on est à haut niveau, donc plus on a un joueur de haut niveau, déjà, plus on a de stamina, et puis et après, plus les donjons difficiles ou les donjons qui ont des choses rares ou des ennemis rares qui popent dedans, plus ça prend de stamina. Mais comme ça se transcrit, c'est pas genre mais si tu veux aller là, tu dois payer. C'est pas du tout ça, parce que d'ailleurs, dans Puzzle & Dragon, personne ne paye pour faire augmenter sa stamina. T'as un truc, j'étais pas mal sur les sites pour comprendre comment fonctionnait le jeu et tout. C'est idiot, personne fait ça.
Il paye pour quoi alors ?
Alors, il paye pour, en fait, il y a des pierres qui permettent deux choses. C'est-à-dire, elles permettent de participer à la. Il y a deux machines, en fait. Il y a une machine, c'est des espèces de machines où on actionne le bras d'un dragon qui va cracher des capsules où dedans il y a les dragons. Et donc il y a la normale qu'on active grâce au point ami quand on aide des amis ou qui nous aident, qui prennent nos dragons ou que nous on prend les leurs, que là on reçoit ces pal points qui eux permettent la machine normale, où on a une petite chance d'avoir des dragons rares, mais généralement, c'est des dragons normaux. Puis après, il y a la machine qui permet d'avoir, à coup sûr, au moins un dragon rare. Et du coup, cette machine, il faut 5 pierres. Et c'est pas la même notion de paiement, c'est 5 pierres, et ces pierres, on les trouve. Quand on level, je crois qu'on en gagne une. Il y a des événements où on peut en gagner, mais sinon, si on veut effectivement beaucoup l'actionner, et ben là, il faut payer. Et il faut pas le faire n'importe quand. Il y a toujours la notion de skill et de connaître le jeu. Par exemple, là, si on le fait n'importe quand, ça va pas être très rentable non plus, parce qu'il y a des jours, il y a des heures, il y a des festivals, il y a des moments où on va avoir plutôt tel type de monstre, plutôt tel autre. Donc, c'est déjà rien que comprendre le fonctionnement de ça, c'est complexe. On n'est pas dans quelque chose où on dit vas-y, actionne, et puis là, tu auras tout plein de trucs, tu vas voir, tu vas gagner, ça va être super, et puis tu seras le plus fort. C'est pas du tout ça. Même là-dedans, dans l'utilisation de ces pierres-là, il faut les utiliser à un certain moment, à d'autres pas. Il faut savoir par rapport à nos équipes qu'on a construites de qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, c'est toujours marqué quand on arrive dans le jeu, les rendez-vous de la journée.
Il y a un petit aspect un peu métagame aussi, et donc communautaire qui s'est mis en place, ça veut dire.
Alors oui, ce qui est marrant, c'est que les amis, c'est pas non plus encourager à aller sur Facebook, inviter tes amis, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout cette mécanique-là. En gros, tu invites des gens, en fait, tu te fais un deck d'amis, en fait. C'est pas une notion de tu regardes les gens, tu as des gens qui vont t'inviter ou toi, tu vas pouvoir inviter des gens. En fait, quand tu n'as pas assez d'amis, ils te proposent automatiquement des gens. Et puis, dès que tu joues avec eux, après, tu peux, avec un de leurs personnages, tu peux les inviter dans tes amis. Et du coup, tu regardes le monstre qu'ils ont, la couleur qu'ils ont par rapport à tes decks qui, toi, t'intéressent. Et puis, voilà. Donc, il n'y a pas tellement cette notion de, voilà, si tu as des amis de la vraie vie que tu as envie d'inviter, ben, là, c'est cool parce que du coup, tu peux t'arranger pour avoir des choses différentes et puis bosser en synergie. Mais sinon, ils ne vont pas te dire comme les jeux King, toutes les 5 minutes, va sur Facebook, invite tous tes amis. Si tu invites tous tes amis, je te donne des cailloux gratuits. Ce n'est pas du tout ça. Donc ça aussi, on sent que derrière, il y a une certaine honnêteté.
Chose qui est absolument insupportable. J'ai envie de bannir, voilà. D'assassiner des amis à cause de ça, de recevoir des invitations. Mais je vous hais tous, sachez-le.
Plus loin, le jeu va jusqu'à te dire, ne joue pas trop longtemps parce qu'il est vraiment fait. La jauge de stamina, c'est une espèce d'autre élément de gameplay, c'est de dire... combien j'investis en sachant que si je fais ce donjon maintenant, parce qu'en fait les donjons aussi, il y a les donjons normaux qui est une sorte de mode histoire, et puis après il y a les donjons, il y a les donjons spéciaux qui, eux, dépendent de l'heure, du jour, de la semaine. Et eux ont des monstres souvent spéciaux, des choses comme ça. Et du coup, tu dois prévoir en disant, bon, si j'utilise ma stamina maintenant, j'utilise ça. Donc demain, à telle heure, j'aurai tant de stamina. Et du coup, je pourrais rentrer dans ce donjon-là qui va se débloquer à telle heure. Donc il y a vraiment, même là, c'est une mécanique où on a pensé le téléphone portable, en fait. Parce en se disant, tu l'as toujours sur toi, tu vas te lancer, oui.
La stamina, elle se recharge automatiquement avec si tu n'utilises pas. Avec ou bien tu peux aussi payer pour en avoir, mais tu dis que c'était débile. Quoi.
Voilà, mais personne ne le fait.
Tout à fait.
Honnêtement, ouais. Personne ne le fait. Parce que ça
vite ou
relativement. En tout cas, bon, moi, au niveau où je suis, j'ai joué 5-6 heures. Honnêtement, jusque-là, je n'arrive pas à me débarrasser de toute la stamina que j'ai. J'en, okay. ai, voilà, j'en ai bien trop. Donc pour l'instant,
ça marche. Et pour une idée, tu sais combien tu as dépensé un petit peu déjà ou pas du tout
Moi, en argent.
Ouais.
Rien.
Rien, t'as pas pour utilisé la. Enfin, pas plus alors, que ça, t'as pas eu besoin d'utiliser.
Non, pour l'instant, pas du tout. J'ai pas eu besoin. Donc, moi, je suis même en partie test parce que, honnêtement, ils disent au tout début, en fait, t'as un monstre. T'as une loterie pour avoir un monstre rare gratuite. Et là, il faut choper un bon starter. Puis moi, j'ai chopé un bon starter de merde. Donc, mais par contre, avant-hier, j'ai chopé pendant un festival, j'avais suffisamment de gemmes. Et là, j'ai chopé un monstre truc. Parce qu'en fait, il y a des monstres qui sont très rares, mais qui sont pas forts en eux-mêmes. C'est-à-dire que si tu les donnes à manger aux autres, ils font monter leur level à très vite. Et moi j'en ai un comme ça, et du coup par contre j'ai pas de monstre intéressant à monter, donc je suis encore en train de me tâter si je restart le jeu. Mais non, j'ai pas dépensé d'argent. D'ailleurs, il y avait tout un débat sur nos lives là-dessus, où ils ont fait deux extra lives qui sont assez intéressants sur le jeu. C'est ça qui m'a donné envie de vraiment m'y mettre, pour voir ce que ça valait, parce qu'ils avaient l'air assez enthousiastes. Et justement, d'autres, il y en avait deux qui critiquaient un de ceux qui étaient là en lui disant « Ouais, mais toi t'as dépensé de l'argent. » Et assez justement, il dit, mais attends, ça fait 2 mois et demi, 3 mois que je joue à ce jeu hyper souvent. Au bout d'un moment, c'est normal que je donne de l'argent. Enfin, le jeu est bon, je m'y amuse. Enfin, là, j'ai pas l'impression d'être. Et là, je trouve effectivement son raisonnement assez juste. C'est-à-dire que si je vois que je croche, pourquoi pas, de temps en temps, comme si on fait les cartes Magic, lâcher un peu d'argent. Voilà, comme il disait, lui, moi, je me fixe le prix d'un jeu normal, 60 euros maximum. Mais voilà, le jeu a pas cette. Il compte pas sur. La seule mécanique qu'on pourrait un petit peu critiquer, c'est le fait que quand on fait un donjon, pour chaque monstre qu'on tue, on a une chance qu'il se transforme en œuf et du coup qu'on le garde. Et là, dès qu'on arrive, le donjon devient de plus en plus dur. Dès qu'on arrive à la fin, par exemple, si on se fait buter par le dernier boss, bah, c'est là on perd tout ce qu'on a gagné pendant le donjon. Donc là, il te propose d'utiliser une pierre pour pouvoir ressusciter et pour essayer de battre le boss quand même. Donc voilà, là on pourrait dire il y a effectivement une volonté de dire essaye. Mais j'ai pas cette sensation de malhonnêteté. Vraiment, j'ai pas dû à aucun moment dans ce jeu j'ai l'impression qu'on essaie de me tordre. Je pense juste que c'est bien pensé, c'est du bon gameplay pour téléphone portable. C'est voilà.
Ça va sortir en Suisse ou jamais? Puis faudra prendre. Rien annoncé.
Inexplicable. Okay. Je sais pas pourquoi il est pas disponible chez nous alors qu'il est disponible dans à peu près tous les pays d'Europe. Je sais pas pourquoi.
On n'est pas dans l'Europe.
Le store ne veut pas de où est-ce que peut-être. Attends, je sais pas, j'ai pas vérifié. Mais peut-être qu'il est disponible qu'en France parce que la France est très fervente des choses japonaises. Je sais pas. Mais
la fermeture des frontières du vote du LDC.
Voilà, c'est ça exactement. Ça. Les dragons ne passent plus.
Exact.
Il y a des quotas sur les dragons.
C'est ça.
T'allais poser une question, ça.
Non, c'est bon. Après une si bonne blague, je vais m'arrêter là.
Tu vas t'arrêter là. Donc voilà. Non, mais si vous voilà, essayez. J'encourage vraiment à essayer parce que c'est quand on voit le nombre de merde qu'on s'avale en matière de free to play, je me dis bon voilà, celui-là son succès.
Puis c'est sympa parce que là du coup, ça tu proposes un free to play plutôt addictif d'après ce que tu dis, mais avec un vrai gameplay, avec une vraie justesse par rapport aux joueurs consommateurs contrairement à d'autres.
D'ailleurs, ça me fait oublier, ça me fait penser avant de passer ailleurs, à plus loin. C'est que la mécanique même de match 3 est très différente de celle qu'on a l'habitude. C'est-à-dire que c'est une mécanique basée. Je pensais pas qu'on pouvait faire du match 3 avec du skill, mais un match 3, normalement, tu essaies de mettre ce que tu peux, tu essaies de trouver l'endroit où tu peux, mais après, les trucs tombent, puis des fois, ça fait des combos, mais tu sais pas trop comment. Parce que t'as pas tellement d'influence vu que tu fais que bouger une pièce à chaque fois. Et il faut que chaque fois, elle déclenche un combo. Alors que là, pas du tout. C'est-à-dire qu'on met le doigt sur la pièce qu'on veut bouger, mais ensuite, on peut la bouger sur. On a un temps limité, en fait, une jauge. Alors, il y a certains dragons qui permettent de rallonger cette jauge, et on peut la bouger sur tout le tableau, et elle bouge les autres pièces. Donc du coup, en la glissant, on peut créer des. J'ai vu 2-3 vidéos de Japonais qui jouent, ça fout les boules. Hein. Ils réfléchissent leur truc et ils bougent la pièce exactement comme il faut, tac 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 tac, pour que ça connecte tous les autres. Et puis après, ils ferment le combo sur la même couleur. Et puis là, il y a tout qui dégage d'un coup. Et forcément, les dragons font des attaques énormes. Donc il y a une vraie notion de skill.
Ah, ça a l'air envie, vraiment. Ça,
ah, clairement, ouais. Ça. Ouais. Par contre, ça va être le truc que tu crushes puis t'es content, quoi.
Ouais, c'est... mais encore une fois, comme il est bien foutu, c'est vraiment quelque chose que t'auras pas forcément envie de consommer pendant 4 heures dans ton canapé. C'est pas ça. C'est plutôt, le risque que tu vas prendre, c'est que tu te dises, je sais pas où t'es à 4 heures de l'après-midi, puis tu sais qu'il y a le festival tel et tel, puis que t'as envie t'as besoin d'aller looter tel monstre, ou je sais pas quoi, dans tel donjon qui est disponible qu'à cette heure-là. Puis là, tu vas vite pendant 5 minutes être en train de faire vite ton donjon.
J'ai envie de prendre ma pause au boulot.
Exactement, où je vais pisser, puis tu vas vite faire. Mais voilà, c'est pas le truc où tu vas rester des heures.
Donc, en tout cas, ça donne envie. Ouais.
Puzzle and Dragons, intéressant à essayer, vraiment.
Mais vu que c'est pas disponible en Suisse et que j'ai pas d'iPhone.
Mais il est sur le. Mais regarde, même si je me demande sur le store Android, il est parce que il est sur les deux.
Mais lui, c'est Windows, c'est pourri. Windows.
Ah, mais oui, t'es Windows.
Moi, je peux regarder sur Android.
Toi, tu peux regarder sur Android. Peut-être que là, Android, c'est un marché mondial, hein, Android. Donc peut-être qu'il est dispo.
Bouge pas.
Voilà. Enfin, puis même pour ceux qui sont sur iPhone, c'est hyper simple de se faire un compte français. Ça prend une minute. Voilà. On passe donc après une dernière pause musicale à Seb. Hein, et sa nouvelle chronique.
On va essayer.
Alors, Seb, c'est à toi de jouer et puis de nous
faire rêver.
Qu'est-ce que tu nous amènes de beau déjà?
Alors, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Skull, qui est une déclinaison d'un jeu qui est sorti en 2011.
C'est sur quelle plateforme? PS3?
C'est sur une plateforme de table, en fait.
Les graphiques, ils sont beaux.
Ouais, c'est super beau.
Ah, d'accord.
Bon, en plus, moi, 80p, j'espère.
Est-ce que c'est en 720, alors?
C'est plus beau Call of ou bien c'est moins beau Call of?
C'est différent.
Ah, c'est différent Call of. Bon, bah...
non, mais le design du jeu me plaît bien. Je sais que Sandro, toi, tu l'as trouvé un petit peu moyen.
J'ai joué avec Sandro. Ouais. Je te laisse le présenter. Puis
Donc, il est sorti à la base en 2011 sous le nom de Skull and Roses, en différentes variantes de couleurs. Et puis, ils l'ont ressorti sous le nom de Skull en 2013. C'est juste le design, en fait, qui change. Le gameplay, les règles ne changent pas. Donc, voilà. Donc, l'auteur, c'est Hervé Marty qui a sorti ce jeu. Marley, pardon. Et puis, c'est distribué par Asmodée. C'est un jeu qui est vraiment basé sur le bluff pur. Donc, par rapport, par exemple, au poker, il n'y a pas du tout de chance sur les cartes ou ce genre de choses qu'on pourrait recevoir. Donc vraiment, c'est du bluff pur et dur. C'est jouable de 3 à 6 joueurs et puis ça dure entre 15 et 45 minutes à peu près. Je vous fais une petite description brève du matériel pour avoir une idée de quoi on joue. Donc chaque joueur sera un espèce de petit tapis de carré qui va être ça pour compter en fait ses points et puis pour poser ses cartes qui sont en fait des cercles. Donc on reçoit chacun 4 disques, et puis sur ces disques, il y a 3 disques qui ont des fleurs dessinées dessus, donc la même. Et sur le quatrième disque, c'est un crâne. D'accord ? Donc c'est vraiment hyper basique au niveau du matériel qu'on reçoit. Au niveau du gameplay, donc en fait, on va désigner un premier joueur qui va poser un disque sur son petit carré qui est devant lui. Et ainsi de suite, dans le sens aigu d'une montre, chaque personne va faire ça. Et puis une fois que tout le monde a posé un disque... en fait, on peut soit décider d'en poser un deuxième par-dessus, ou à ce moment-là de dire qu'on va lancer un défi. D'accord ? Donc les défis, le but de ça, c'est de retourner le nombre de disques qu'on va dire, mais sans tomber en fait sur un crâne. Donc par exemple, si je lance un défi, la personne qui est à ma gauche peut surenchérir mon défi, par exemple si je dis 1, il va dire 2, etc., jusqu'à arriver, si quelqu'un y arrive, au nombre maximum de disques qui ont été posés sur la table.
On peut même dire plus, hein, c'est ça. On peut commencer à 4 par exemple.
Dire qu'on peut commencer à 4 si on veut. On n'est pas obligé de commencer par. On peut pas dire plus que le nombre de disques qu'il y a de poser. Et puis donc on peut soigner en posant un deuxième disque. Celui de sa gauche en pose un deuxième, etc. Et puis ben, s'il n'y a personne qui lance de défi jusqu'à la fin, que tout le monde ait posé ses 4 disques, ben, le défi se lance automatiquement. On n'a plus le choix s'il n'y a plus de disques à poser. Et puis donc une fois que les enchères se sont faites, la personne qui a enchéri le plus haut doit retourner ce nombre de disques sans trouver un crâne en fait. Donc après, il est obligé, c'est vraiment la règle impérative, de retourner tous ses disques en premier.
Que beaucoup de joueurs débutants oublient.
Voilà.
Ah, mais je dois retourner mes disques.
Voilà. Et à l'arrivée, bah, c'est clair que si on essaie de feinter en disant voilà, je lance un défi à deux, puis que personne ne surenchérit derrière, puis qu'on doit retourner ses propres disques et qu'on avait posé un crâne pour essayer de faire tomber quelqu'un, eh ben ça marche pas. Donc ça, c'est vraiment la chose qui est vraiment importante. Une fois qu'on a retourné donc, le nombre de disques, si on y arrive, bon, on retourne son petit tapis de jeu de l'autre côté, et puis à ce moment, bon, on a réussi un défi, et puis dès qu'on en a réussi deux, on gagne la partie. Par contre, si on se plante et qu'on tombe sur un crâne, la personne à qui appartient ce crâne va enlever à l'aveugle un de nos quatre disques, et on n'en a plus que trois, et puis etc. Et puis si on en a zéro, ben, on perd et on arrête de jouer, en fait. D'accord ? Donc voilà. La chose qui m'a beaucoup plu dans le jeu, c'est que c'est hyper simple au niveau du gameplay. Enfin, je dirais, il n'y a pas besoin d'appeler Einstein pour y jouer. Par contre, il y a beaucoup de gens au début qui disent « Ah, mais il n'y a que de la chance dans le jeu, etc. »
Moi, le premier.
C'est Sandro le premier. Okay. Et puis en fait, ben, il y en a un petit peu, parce que forcément, on ne peut pas savoir exactement ce que la personne a joué. Mais en fonction des réactions des gens, de comment les gens jouent, est-ce qu'ils essaient de vous faire croire que peut-être ils vont surenchérir, mais pas, etc. Enfin, on va essayer, je dirais, un peu de lire les gens, quoi. Et puis, bon, on s'est rendu compte avec Sandro, on a fait
ça. Ouais,
ouais, c'est vraiment
basé là-dessus. Des adversaires.
Aussi, bootcamp pour le bluff au poker, quoi.
C'est vraiment ça. C'est qu'il n'y a que la partie.
Il n'y a vraiment que cette partie.
Que cette partie-là.
Et c'est vraiment hyper basé là-dessus.
Puis regarder un petit peu aussi les mains des gens, voilà. Regarder un petit peu comment ils touchent leurs cartons. Il y en a, j'ai joué contre quelqu'un qui était très malin, qui regardait quand mes cartes étaient retournées, qui voyait le crâne où je le remettais, et il regardait mes mains en fait. Puis moi, je m'étais pas rendu compte.
Ouais.
Et du coup, ça aussi, il faut bien faire attention à ce que tu sors, comment tu le sors,
tu y poses, etc. Puis ce qui devient par exemple embêtant, c'est que si tu te fais retirer une de tes quatre cartes parce que t'as loupé un défi, typiquement. Si tu te fais retirer par exemple 2-4, il t'en reste plus que 2, il y a des gens qui vont exprès venir voir chez toi quand ils vont leur faire un défi, au risque peut-être de tomber sur un crâne, mais juste de savoir ce qui te reste dans les mains en fait. Est-ce qu'il te reste des crânes, est-ce qu'il t'en reste pas, enfin, est-ce qu'il reste pardon, un crâne ou pas, etc. Donc, et puis c'est vrai que j'ai l'impression qu'on s'en apprend à jouer avec ces gens. Sandro, on a fait plusieurs parties ensemble. Ouais. Et puis ben, on s'observe, on apprend comment
on joue. Au bout d'un moment, on sait s'il va avoir tendance à poser.
C'est ça.
Il y a un truc très intéressant d'ailleurs là-dessus. Je connais quelqu'un qui a aussi beaucoup joué. Il paraît qu'à 3, il y a un truc qui est un peu humain et qui marche quasiment à tous les coups. C'est que quand quelqu'un a marqué un point, c'est-à-dire a réussi son défi, généralement, après, tout le monde met une fleur pour commencer. Donc du coup, si tu commences, tu peux enquiller ton deuxième point quasi immédiatement parce que tu les laisses poser. Dès que c'est de nouveau à toi, tu dis 3, tu retournes tout. Et généralement, la plupart du temps, il y a tes goals. Parce que les gens... Alors moi, le problème, c'est que ça fait longtemps... J'ai beaucoup joué en maison de quartier avec les jeunes.
Ouais.
Mais on a joué à 4, 5, 6. Donc, je n'ai pas eu l'occasion. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, même à plus, c'est assez vrai. Les gens ont tendance à vouloir... Ils disent, putain, il est en train d'avancer là. Il va gagner. Donc, moi, je vais attaquer. Donc, du coup, je ne mets pas le skull pour pouvoir ensuite réussir mon défi.
Okay.
Et c'est vrai que c'est pas bête. Mais du coup, il y a pas mal de choses à étudier. Voilà, le fonctionnement de l'esprit déjà des gens qu'il y a, puis le fonctionnement général. Et aussi des fois, sentir le jeu, dans quelle direction il va.
C'est vraiment le bluff fondamental du poker, où tu effaces tout ce côté aléatoire.
Il n'y a rien.
Exactement.
Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de chance.
Une sorte de truc assez essentiel comme ça, sur le bluff, la lecture de l'autre. C'est intéressant. Ouais.
Ce qui est sympa, c'est que tu peux aussi jouer sur le côté. Bah, par exemple, si tu retournes un crâne, puis que tu l'as fait après, tu as retourné deux fleurs, puis que le troisième c'est un crâne et que tu avais dit 6, tu n'as pas le droit de voir les autres ce qu'ils avaient mis. Par contre, eux peuvent te montrer s'ils ont envie. Donc ça peut aussi foutre la merde et dire bah voilà, t'aurais dû retourner chez moi.
De l'intox.
Exactement. Ouais. Et puis tu peux aussi parler. Tu peux dire mais viens chez moi. Moi, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de crâne, etc. Puis d'un coup, il retourne. Puis il y en a un. D'ailleurs, je l'ai fait à Dorothée l'autre jour. Ça a assez mal passé. Mais...
Ouais, il a failli dormir dans attention. Il a failli dormir dans la baignoire.
Mais, et puis voilà. Puis le coup, tu lui dis ouais, mais viens chez moi, il n'y en a pas. Il y en a un. Il a deux parties après, tu lui refais le même coup,
mais
il
ne sait
plus quoi croire.
Ouais.
Donc la personne est perdue, etc. Donc voilà.
Ouais, c'est très bien. Le seul truc, bah moi, comme je te disais, c'est un jeu où j'ai eu de la peine parce que je trouvais effectivement le matériel pas très beau. En fait,
je trouve sympa.
Mais y a d'autres gens qui m'ont dit qu'ils le trouvaient sympa. Mais moi, je trouve c'est. En fait, les crânes sont assez cool. En fait, mais tout le reste, c'est rond comme ça. C'est les motifs de fleurs qui sont un peu. Les couleurs aussi choisies. Moi, me plaisait pas plus que ça au niveau du matériel. Mais effectivement, le jeu est tellement génial. Et chaque fois, la dernière fois qu'on a été chez toi, je râlais quand j'avais pas trop envie. Je me suis dit, bon, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc faisons la scale. Et chaque fois que j'y joue, je me dis, putain, mais ce jeu, il est brillant. Quoi.
Après, il y a plusieurs designs. Donc, justement, la dernière version,
oui, c'est que moi, j'ai pas vu l'ancienne.
Est assez basée avec des côtés un peu, je dirais, ethniques, dans le sens où il y a des masques qui ressemblent à des côtés africains. Il y en a d'autres, on dirait des Maoris, etc. Enfin, donc, c'est vrai qu'après, on croche ou pas au délire. Mais l'ancien, la première version était plus avec vraiment des purs crânes puis des roses. Ça donnait un peu Guns N' Roses sur le principe.
Un peu tatou comme ça.
Ouais, cool. Vraiment un peu plus motard, etc.
Ou ça me plaît plus.
Ouais, moi je pense aussi mais, que j'aurais.
Mais après, le gameplay est vraiment le même, quoi. Donc, ouais. Donc voilà. Donc, ouais, je disais, j'ai fait une petite rubrique à la fin du je dirais pourquoi ou pourquoi ne pas l'acheter. Dans le pourquoi, j'ai mis, je trouve l'accès qui est hyper facile. C'est vraiment, quelqu'un même qui n'est pas joueur, on lui explique en 2 minutes les règles, c'est hyper simple. Le prix est hyper accessible parce qu'il y a peu de matos, donc ça coûte pas très cher.
Il est quoi, 25 hein.
Ouais, quelque chose comme ça, 25 francs, ouais. Donc c'est vraiment accessible. Et puis facile à transporter, c'est en l'état, mais c'est vrai que des fois il y a des grosses boîtes comme Earth Reborn. Qui...
N'est-ce pas?
Voilà. Après, dans le pourquoi pas, le jeu, il y a des gens qui trouvent ce côté trop bluff pur, ça dérange parce que c'est basé là-dessus. Puis il y a des gens qui n'aiment pas ce côté-là, à qui justement ça allait plus. Et puis justement, ce côté trop chiant sur les premières parties, j'ai eu des gens qui m'ont dit ouais, mais.
J'ai l'impression de
rien maîtriser, en fait, c'est juste de la pure chance. Puis en fait, on se rend compte après quelques parties que c'est pas le cas, quoi. Ouais. Donc voilà.
Ça me fait penser un peu au loup-garou, aussi un petit peu, mais des loup-garous, les toutes premières versions, t'avais pas trop joué. De milliards de règles.
On n'a jamais joué non plus.
Ah, ça, faut jouer.
Il paraît que c'est très très bien, mais toujours.
Parce que là aussi, on est dans des règles extrêmement simples où on est dans la lecture de l'autre. Je dirais que ce que j'aime bien dans le loup-garou par rapport à ce que tu m'as décrit là, c'est que le loup-garou, il y a une sorte de cadre.
Oui, narratif un peu.
Ouais, narratif qui est tout simple, qui est toujours le même, mais. Qui marche assez bien, qui crée des ambiances assez drôles. Et puis, on est vraiment aussi là dans la lecture, dans le bluff. C'est pas mal. Essayez vraiment, je pense que ça pourrait
être. Oui, tout à fait.
Ouais, c'est vrai que surtout que.
Ah, c'est très sympa.
C'est hyper accessible.
Son seul défaut, c'est qu'il faut être joué à plusieurs, quoi. À beaucoup, quoi. C'est ça.
Mais faut pas abuser non plus. Hein. Alors, je sais qu'il y a des mecs qui disent qu'ils ont joué à 200. Hein. Y a des
mais j'entends, mais qu'il faut être au moins 5-6, quoi.
Il faut être 5-6, c'est bien, ouais.
Mais du coup, de temps en temps, on a des.
Mais n'hésitez pas, en tout cas, par contre, si vous l'essayez, le loup-garou, aller dans les versions assez basiques. Parce qu'ils ont sorti des extensions qui commencent à complexifier le truc, qui ont un sens à partir du moment où tu as beaucoup joué au loup-garou de base. Il faut recommencer avec les bases. Si jamais.
Okay. Ça marche.
Bon, Sam, toi, tu...
Ah, moi, ça fait juste très envie, donc j'ai hâte que vous m'invitiez pour jouer à ça.
Mais samedi, tu es le bienvenu.
Genre, je viendrai samedi.
Écoute, merci beaucoup pour cette nouvelle rubrique. Je peux passer une commande?
Ouais,
la prochaine fois, tu nous parles de Quantum, s'il te plaît.
De Quantum?
Oui, allez, moi, ça me ferait
plaisir. Ah, je veux bien essayer.
Ouais, ça serait cool.
Quantum de Xbox One, là
Exactement, le truc de Remedy. Non, pas du tout.
Un jeu brillant que Sandro m'a fait découvrir l'autre jour.
Je suis amoureux de ce jeu. Je
brille. Vraiment très, très bien. Ça m'a essayé d'ailleurs aussi.
Bon, d'ailleurs, jeu d'un. On en parlera la prochaine fois, mais d'un ancien game designer de jeux vidéo plutôt. Ce qui est marrant. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ce podcast.
Merci à toi. Merci d'avoir pu prendre le flambeau du présentateur.
Ouais, avec un petit peu Arculon, mais.
Tu amènes maintenant.
Mais on se réjouit de retrouver notre Yannick National la prochaine fois. Et puis, alors au mois prochain.
Au mois prochain.
À bientôt.
Au mois prochain.
Au revoir,
salut.
Bye. Bye. Come again soon.